à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Japon à Suzuka qui a vu la victoire de Sebastian Vettel et peut-être, a-t-on assisté à un tournant du championnat. Mais ça, comme on dit, l'avenir nous le dira. Pour m'accompagner, comme d'habitude, bonjour Dino.
Bonjour Chedi. Une victoire de Sebastian Vettel?
Ah non, j'ai bien dit Sébastien Vettel.
Non, tu réécouteras bien le SAV, mercredi, tu verras, t'as dit Sébastien. Attention, t'es en train d'écorcher le nom du futur simple champion du monde.
Ah ça y est, toi tu t'engages.
Ah bah oui, non mais, attends, c'est bon, c'est mort, ça y est. Vous allez tous souffrir.
Et Dino, qui est là pour nous accompagner aujourd'hui?
Alors cette semaine, nous avons un invité un peu spécial, puisque ce n'est ni plus ni moins que le vainqueur de la micro-race totale, qui a remporté, donc, c'était il y a une grosse dizaine de jours, c'était mardi il y a 15 jours, donc il y a 15 jours quand vous écoutez, par conséquent. C'est Mathieu Franciosa, qui a eu notamment le plaisir de passer une journée au Castellet avec Romain Grosjean et a piloté une F1. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On aura l'occasion d'y revenir.
Bien sûr. Alors messieurs, comme d'habitude, je vous pose la question traditionnelle, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix? Et pas simplement des 10 premiers tours. T'as vu comment je réponds un peu à la question en même temps?
C'était bien?
Bah le début était bien. je veux dire, de façon globale, je veux dire qu'il s'est passé des choses voilà, au début de la course. Après, ça a été plus calme. Après, la question, ça a été, ouais, est-ce que Camus fera son podium ou pas?
Oui, voilà.
Voilà.
C'est un peu résumé à ça.
Oui, je sais pas, Mathieu.
D'ailleurs, globalement, la course a été le seul enjeu de la course. Est-ce que Kamui va faire un podium?
À peu près, oui. Mathieu.
Et toi, Mathieu?
Moi, je suis un peu dégoûté quand même.
Attention, hein, on parle de généralité pour commencer.
Ah oui, non, c'est vrai. Non, il faut dire que Mathieu est un tout petit peu fan de Ferrari.
Bah, on reviendra dessus. Je vais vous raconter des anecdotes et tout.
Ah oui. Oui, parce qu'il va y avoir. Non, on va pas y avoir de la polémique aujourd'hui, il va y avoir du sens aujourd'hui dans les SAV.
Bah disons que Shinji, je crois que Mathieu et moi on va être obligés de te tuer, hein, voilà.
C'est... Mais, oui, aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui c'est pas le bon jour, Shinji. T'as intérêt d'être tout sage dans ton coin, de pas nous faire chier, parce que sinon,
c'est
je vais te dire.
C'est un incident de course, ça va, c'est pas...
Non, Shinji, il a failli tuer Alonso.
Non, quand même pas.
Je suis pas crédible.
Et donc aujourd'hui, parce que c'est... Alors, pour une fois, on enregistre le jour même. Vous direz, ça tombe bien, c'est le Japon. Ouais. Au moins, voilà, c'est petit déj Grand Prix, après-midi SAV. Bon.
C'est le SAV du dimanche de la F1.
Ouais. Et donc, nous sommes aujourd'hui même le 7 octobre.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle. Qu'elle fait mérite.
Cette semaine, messieurs, un chiffre très précis, puisque c'est le chiffre 7422.
Donc tout de suite, je te préviens, Mathieu, il faut que tu devines ce qu'il y a derrière ça.
Ah oui, il
n'y a aucun rapport avec la formule. Mmh. 7422. Mmh. Est-ce que c'est une date, Shinji?
Non, je t'ai déjà dit, je ne fais que le calendrier commun, donc non, ce n'est pas une date.
Ouais, ça aura pu se passer en moins 7422.
Ouais, mais tu sais bien que j'évite de prendre des trucs super vieux, puisque quand même que ça intéresse au moins quelques personnes.
Oui, ouais, voilà, au moins une, ça sera bien. Est-ce que c'est un nombre de personnes?
Non, mais il y a des personnes dedans.
Ça m'intrigue.
Disons que, on peut dire que c'est 7422, ça correspond au moins, je dis bien au moins, à plus de 80 000 personnes.
Ok. Ouais,
et si, 81 642. Si tu trouves le rapport entre les deux chiffres, c'est un énorme indice sur l'éphémérite.
C'est un nombre d'îles?
Non.
N'hésite pas à poser des questions, Mathieu. Histoire que je te grille comme ça sur la ligne d'arrivée.
Non, mais en fait, je cherche sur Google.
Ah bah non, mais il faut
mais
pas.
Mais non, c'est pas drôle.
Faut que tu devines.
Non, je vois pas, tu dis un chiffre comme ça, je sais pas.
Ah, c'est pour ça qu'il faut poser des questions.
Est-ce qu'il y a une unité de mesure d'ailleurs, Shinji?
Non.
Non? Est-ce que ce sont des choses qu'on peut toucher?
Oui, d'une certaine façon, on peut les toucher.
Et on met 81 000 personnes dedans?
Oui, ça correspond au moins à 80 000 personnes. Ça peut être plus. Normalement, c'est même plus.
C'est une surface?
Non.
Non, je sais pas.
Attends, j'ai bien compris, c'est 7422 trucs qu'on peut toucher, ouais. Et dans lesquels on peut mettre 81 000 personnes.
Ça représente 81 000 personnes. Au moins.
C'est pas clair ton indice, mais c'est pas grave.
Tu sais toujours, ça s'éclairera. Je peux vous dire que c'était 7422 l'an dernier, mais qu'à l'origine, c'est que j'aime bien faire ce genre de truc, c'était, ils étaient 48.
Bon alors sinon Mathieu, explique-nous un peu le Castellet. attends. Et ce sont des choses construites par l'homme.
On peut dire que ce sont des choses construites par l'homme, mais ce sont pas des choses matérielles.
C'est numérique?
Non.
Ça a un rapport avec l'informatique?
Non.
Quand tu veux Mathieu, hein, n'hésite pas. Hein.
Il cherche sur Google.
En fait, j'ai trouvé que c'était un lave-vaisselle.
Est-ce que c'est un lave-vaisselle?
Ça n'est pas un lave-vaisselle. Continue à chercher sur Google, on va se marrer.
Attends, 7422, c'est pas matériel. C'est vivant?
Oui.
Attends, c'est vivant et il y a 80 000 personnes dedans.
Oui, enfin les 7422 correspondent à 80 000 personnes. Donc c'est ce en quoi c'est vivant, c'est que c'est composé de personnes.
Ah, c'est des groupes de personnes en fait.
Oui.
Des groupes d'une entreprise?
Non, même si parfois ça peut être lié à une entreprise.
C'était quoi, t'as dit au début, c'était un groupe de 48 personnes ou un truc comme ça là?
À l'origine, ils étaient 48. Maintenant, ils sont 7422.
Donc c'est 7422 groupes de personnes.
Exactement.
Sur Internet?
Non.
Est-ce que c'est des gens qui ont des spécificités culturelles?
Non, pas spécialement.
Parce que du coup, c'est 7000 groupes avec 80 000 personnes au total, ça fait quand même, entre guillemets, des petits groupes.
Oui, voilà, c'est tout à fait.
Est-ce que c'est sportif?
C'est sportif.
Ah d'accord, bah ça arrange. 7422, 80 000. Donc c'est, les 81 000, ils sont dans un stade?
Alors, ils ne sont pas dans un stade.
Dans plusieurs stades?
Oui.
Dans 7422 stades.
normalement, en France, oui, en règle générale, ouais.
Hein?
J'irais oui.
Oui, il y a 7422 stades?
Je pense.
Mais c'est pas le chiffre?
Non.
D'accord.
Il se peut que ça soit moins de stades, si tu veux, mais
C'est... Comme j'avais pensé une surface, tu vois, que genre il y avait 80 000 personnes qui pouvaient rentrer dedans, c'est pour ça que j'avais parlé de surface, enfin, aller à un terrain de football, tu vois.
C'est des arbitres?
Non, mais ça concerne le foot.
Ça concerne le foot. C'est des stadiers?
Non.
C'est des joueurs?
Bah, il y a des joueurs dedans.
Mais des joueurs qui jouent au foot?
Bah oui, des joueurs qui jouent au foot.
Attends, je suis paumé là. C'est le nombre de clubs qu'il y a en France?
C'est pas le nombre de clubs qu'il y a en France.
Le nombre de...
Il y en a à peu près 20 000, hein, clubs qu'il y en a en France.
Nombre de clubs professionnels? Nombre de clubs amateurs?
Non, plus simplement, mais ils sont dedans.
Le nombre d'entraîneurs?
Ah, théoriquement, il n'est pas impossible, oui, qu'il y ait 7422 entraîneurs.
Le nombre de propriétaires?
Bah, ça y pense, si un propriétaire a plusieurs équipes.
Oui, mais alors, attends, le nombre d'équipes de football?
Oui, mais à quoi? Si c'est pas ceux qui, tous les clubs de France. Parce que
Ah, mais féminine?
Non.
Les juniors?
Non, non.
Football aveugle?
Non, enfin, quoique. Mais non, non, non.
Non.
Qu'est-ce qui peut réunir 7422 clubs en France?
Ah, la Coupe de France!
Mais oui! Le 7 octobre 1917.
Mais t'es tordu comme mec.
Mais non, c'est juste le nombre d'équipes qu'il y a dans la Coupe de France! Je veux dire, à partir du moment où tu me dis et que tu sais que c'est des équipes, moi je pensais que ça irait tout seul!
Non mais c'est tellement compliqué ton truc, tu me donnes des indices et tout là. Donc il y en avait que 48 au départ et maintenant il y en a 7422.
Voilà, parce que en effet le 7 octobre 1917 débutait le premier tour de la première Coupe de France de football. Et donc en effet, donc pour comparer, donc cette année en tout cas la saison dernière, il y avait 7422 clubs
dont le petit QVI
entre autres. Donc sur les à peu près 20 000 clubs qui sont rattachés à la Fédération Française, ce qui est assez exceptionnel parce que les autres coupes nationales sont beaucoup plus fermées. C'est-à-dire que, bon, à part l'Angleterre, il y a environ 750 clubs qui participent à la FA Cup. Dans les autres pays, en général, c'est vraiment limité aux clubs professionnels. C'est 30, 60 clubs. Mais non, en France, c'est 7500 clubs. Et s'il y en a pas 20 000, c'est parce que un des rares critères, en fait, pour pouvoir y participer, c'est qu'il faut un terrain homologué. C'est-à-dire qu'en fait, les 13 000 autres, c'est qu'ils n'ont pas de terrain homologué. Sinon, c'est quasiment tout ce qu'il faut, à part justement payer les droits d'inscription et faire partie de la Fédération Française de Football.
D'accord.
Sachant qu'il paraît que dès 1920, les grands clubs déjà voulaient réduire le nombre de clubs à la Coupe, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Et ils ont attendu 70 ans pour créer la Coupe de la Ligue, qui pour le coup ressemble plus à ce qui existe en Coupe nationale dans les autres pays. Et donc en 1917, ils étaient 48 clubs. Enfin, pour être précis, il y avait 46 clubs français. Et alors, me demandez pas pourquoi, hein, au premier tour, c'était les 32e de finale, il y avait deux clubs britanniques. je sais pas, on l'avait pas dû leur expliquer le concept de la Coupe de France. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a le British Aviation FC qui a gagné mais qui a été disqualifié parce qu'ils sont pas français, hein. Et puis l'autre, le London County SC, ils ont gagné mais ils ont perdu, donc c'était pas grave. Donc à l'époque il y avait 6 tours jusqu'à la finale. Qui a vu la victoire de l'Olympique de quoi d'après vous?
De c'est pas l'un des deux Olympiques qu'on connaît.
Non.
L'Olympique de Livourne, on va entrer dans le... un petit patelin qu'on connaît.
Alors pas. C'était l'Olympique de Pantin qui est devenu plus tard l'Olympique de Paris et qui s'est rattaché plus tard au Red Star sur un score de 3-0 au stade de la rue Olivier de Serres où attention, il y avait 2000 spectateurs.
Waouh.
Pour dire, la première année, il n'y avait même pas les clubs du nord-est de la France, parce que c'était encore la guerre.
Ah oui, c'est vrai. <C'est>...
non, il y avait encore la guerre, mais c'est pas grave, on lance une Coupe de France.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il y avait des Anglais.
Peut-être.
C'est peut-être des joueurs qui étaient en France, à ce moment-là.
Il y en a un, c'est London County SC, je veux dire, autant British Aviation, mais London County, a priori, c'est un club de Londres.
Oui, bah, comme son nom l'indique, il y a des chances, effectivement. C'est comme le club de Pantin. Il y a des chances qu'ils viennent de Pantin.
Voilà. Donc, à l'époque, c'était 6 tours. Aujourd'hui, c'est 14 tours de coupe, dont 8 tours préliminaires. C'est tellement long qu'il commence, en fait, en avril. C'est-à-dire avant la finale de l'édition précédente.
Oui.
Et donc, bien évidemment, vu qu'il y a tellement de clubs, il y a évidemment énormément de les fameux cas des petits poussés, hein. On a parlé de Quevilly, bien évidemment, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, hein. Il y a eu Carquefou récemment.
Calais.
Plus ancien, tiens, en février 57, le club algérien du SCU Elbiar élimine le Stade de Reims, qui à l'époque était quand même finaliste de la Coupe d'Europe.
Faut quand même préciser qu'à l'époque, l'Algérie était française.
Oui, bah oui. Oui. Et que le Stade de Reims était une grande équipe de foot.
Oui.
Bah, pas que cette année, parce qu'ils sont, mais voilà, ça a été une grande équipe de foot. Donc, 14.
Bah, cette année, ils sont pas trop mal.
Bah, non, c'est pour ça, je dis que c'est pas que cette année. C'est, voilà, dans le passé, ça a été une énorme. C'était le Stade de Reims, c'était comme Lyon, Marseille.
Bah, c'était le club de Fontaine, je crois.
Et de Copa.
Et de Copa.
Tout à fait. Et alors, faut savoir que jusqu'en 68, il y avait pas de prolongation ni de tir au but. Donc, quand il y avait match nul, on rejouait le match. C'est ainsi qu'en 64, hein, Agde et les Pierrots de Strasbourg ont mis 4 matchs pour se départager.
Ah oui.
Alors après, ils se sont dit, ouais, bon, on va mettre une règle, hein, au bout de 3 matchs nuls, on fait ça à pile ou face. Ce qui est arrivé en 67, quand même, pour une place en finale.
Voilà. Mais en Angleterre, ça se fait, ça, hein. Il y a des rematchs en Angleterre, souvent.
Oui. Il y a un autre pays, je sais plus si c'est l'Italie ou l'Espagne.
C'est peut-être plutôt l'Espagne.
L'Espagne, ouais, où ils rejouent le match.
Ouh, on rejoue le match.
Et donc après, donc en 68, ils ont mis des matchs aller-retour, hein. Et en fait, la formule actuelle elle date de 89, donc avec des matchs en un seul match justement direct, ce qui permet de favoriser justement tous ces petits poussés. Et donc d'après vous, quel est le club qui a le plus gagné de Coupe de France? C'est un club qui est connu.
Lyon.
Non.
Marseille.
C'est Marseille. 10 titres. Devant le PSG, 8 titres, ce qui par rapport à l'âge des deux clubs, c'est quand même pas mal le PSG, hein, ce qui est quand même plus récent que Marseille. Et ouais. Saint-Etienne, 6, et le LOSC, 6-6. Donc quand même des grandes équipes. Donc ça, tu vois, comme quoi, tu vois, dans les films, il y a aussi du sport.
Bah oui, d'ailleurs, justement, je me suis dit, que s'est-il passé un 7 octobre en Formule 1?
Eh bien, on peut noter 2 grands prix. Il y a eu 3, c'est le 6e grand prix qu'il y a un 7 octobre. On peut en noter 2. Il y a le Grand Prix d'Europe 1984. Alors bon, c'est une victoire d'Alain Prost, rien de spécialement de particulier sur le résultat, mais surtout c'était le...
Non, CG. Oui. On est obligé réglementairement de faire un quart d'heure sur Alain Prost.
Mais on fait jamais c'est un obligé. Quart d'heure sur Alain Prost.
Mais on est obligé, si on ne parle pas de Prost, on va avoir des protestations, CG. Donc on fait un quart d'heure sur Prost. Allez,
tu démerdes.
Raconte-nous le Grand Prix.
Bah écoute, il était sur McLaren, il a commencé où? Il était deuxième, il a battu Piquet, donc c'était bien. Avec un carambolage au premier départ provoqué par Ayrton Senna, tiens.
Oh, dis donc.
Non, surtout, c'était, en fait, c'était le retour, entre guillemets, du Nürburgring. Ou plutôt, c'était la première course sur le Nürburgring, entre guillemets, moderne. Qu'on ne reverra peut-être plus jamais, d'ailleurs.
Ah oui, mais c'est le fameux Grand Prix, parce que c'est la première saison d'Ayrton Senna. Et il avait gagné, il avait participé à la course inaugurale qui était organisée par Mercedes la semaine d'avant le Grand Prix, je crois, qui réunissait tous les plus grands champions et compagnie. Et il avait gagné. Alors tout le monde était là un peu pour s'amuser, pour se détendre. Et lui, non, il voulait gagner. Et c'est à ce moment-là que Prost d'abord a fait sa rencontre, parce qu'on a demandé à Prost de l'attendre à l'aéroport parce que son avion venait juste d'arriver, celui de Senna arrivait après. Donc on a demandé à Prost de l'attendre pour qu'ils fassent voiture ensemble. Et apparemment, de mes souvenirs, de ce que j'ai pu lire, apparemment déjà l'ambiance était là. Déjà le jeune avait les dents.
Il revenait d'une course de mise à pied en plus.
Oui.
Oui, apparemment, oui, je lis. Oui, il a loupé son freinage, il a percuté Rosberg, qui était mal parti, avec un carambolage qui a impliqué Laffite, Berger, Ginzani et Surer. Ah, pas mal.
Ouais, gros gens à côté, c'est un petit joueur.
Un petit joueur. Et puis aussi, Grand Prix plus récent, et qui va sans doute plus vous parler, en 2007, c'était le Grand Prix de Chine, alors qui a été gagné par Kimi Raikkonen, mais c'est pas ça qu'on retiendra, même si c'était la 200e victoire de Ferrari. Non,
oui, non.
On
retiendra le plus petit bac à sable.
Tout à fait, voilà.
Ah, il était bien ce bac à sable.
C'était son premier abandon de carrière, Hamilton.
Oui, ah, c'était beau.
Il était à quoi, 100 mètres des stands? Même pas, il était limite dedans, les stands.
Oui, voilà.
En même temps, il aurait dû rentrer plus tôt. Ses pneus étaient dans un état...
On va pas refaire la course.
Non. On en a déjà une affaire là. Hein, c'est...
Je crois sincèrement que ça n'est pas dans ton intérêt qu'on refasse la course.
Voilà, c'était tout pour l'éphémérie de la semaine. Dino, c'est l'heure de l'invité.
Oui, c'est l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Mathieu, tu ne connais sans doute pas l'émission, mais tu vas vite découvrir que Shinji est un peu bavard. Voilà, c'est quelque chose qui est depuis pas mal de temps, on lui fait le reproche, on dit « Shinji, tu parles trop et compagnie, laisse un peu parler Dino, laisse un peu parler l'invité ». Et donc on a décidé de consacrer une petite parenthèse pour l'invité, pour qu'il puisse un peu nous parler de sa vision de la Formule 1. Et pendant ce temps-là, Shinji, il ferme sa gueule, théoriquement.
Oui, il faut que je me prépare pour après, hein.
Voilà, parce faut que tu te prépares parce que après,
les pitbulls seront sortis, donc.
Et donc, traditionnellement, on commence par le pour pas pour, mais bon, c'est un peu spécial, donc on va d'abord revenir sur ton expérience à toi. Et donc, à tout moment, on va te demander d'abord rapidement de te présenter, qui tu es, d'où tu viens, et puis.
Je m'appelle Mathieu Franciosa. J'habite à côté de Versailles, en France, à Guyancourt.
Guyancourt, voilà, pour un fan de sport mécanique, Guyancourt, c'est pas mal.
Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai participé à un concours organisé par Total F1 et la Lotus F1 Team par l'intermédiaire d'un jeu Flash sur Facebook, comme quoi il fallait, avec une Lotus Renault, une petite voiture, sur un circuit simplifié, par exemple de Spa ou de Monaco, de faire 3 tours le plus rapidement possible.
Ah ben moi j'ai fait 3 tours sur moi-même. J'ai essayé, je t'avouerai, j'ai essayé. J'ai fait 10 mètres à Monaco et j'ai fait 3 tours.
Ouais, non, mais pour la première fois c'est difficile à prendre en main ce jeu quand même.
T'as fallu combien de temps toi pour prendre
Moi ce qui me dit, c'est que en tout j'ai fait 1800 parties.
Ah ouais.
Et dont 1600, 1500 sur le circuit de Spa, parce que sur le circuit de Spa en fait il y avait le stage de pilotage à gagner. Tu vois.
D'accord.
Sinon sur les autres circuits, tu vois, c'est des lots, ça peut être un casque, une réplique d'un casque de Romain Grosjean qui signe, et après c'est des parapluies de Lotus et tout.
Ouais.
Là c'était vraiment, j'ai vu que c'était le stage de pilotage à gagner, du coup je me suis mis à fond dedans.
t'es un vrai passionné, enfin t'as même.
Oui, ce qu'ils m'ont dit aussi, ils m'ont posé quelques questions. Ils m'ont dit, c'est qu'est-ce que tu fais en ce moment, tu joues à quoi comme jeu, parce que est-ce que t'as des jeux D1 sur la PlayStation ou un truc comme ça. J'ai dit oui, moi j'ai tous les jeux D1 depuis 1995 à aujourd'hui sur la PlayStation.
Ah oui, quand même.
D'ailleurs, il y en a même, il y a une personne en France sur Canal+ qui passe et qui présente les jeux vidéo. Et il m'a demandé en fait comme quoi en 2011 ils ont mis le safety car dans le jeu F1 2011.
Oui.
Mais en fait dans le F1 98 il était déjà. Et ça ils le savaient pas.
mais ça se limite pas à ça. Enfin j'ai cru voir aussi que tu faisais du karting.
En fait mon père il a voulu que je commence le karting à l'âge de 2 ans.
Ah papa est passionné de course automobile.
Voilà. Il a un Ferrari et tout là. Et donc voilà, moi j'ai commencé le karting à 2 ans. Là, je pratique en loisir et compétition amateur le 125 à boîte de vitesse. Sinon aussi, ce que je fais, c'est des sélections pilotes. Genre, par exemple, il y a Citroën qui fait le Rallye Jeune. Je sais pas si vous connaissez.
Oui. Ouais.
Il y a Abarth aussi.
Oui.
Et Abarth, récemment, au mois de mai, j'ai été sélectionné. Faire la Abarth Driving Academy en Italie avec Margot Laffitte comme coach.
Ah ouais, ouais. Ah dis donc, Margot Laffitte comme coach.
Ouais, du coup c'était bien sur les petites Fiat 500 Assetto Corse et que Margot j'ai revu à la finale à Paris.
Oui.
Du coup elle m'a fait ah t'es encore là toi, pas partout. Après sinon je vais continuer à faire les sélections parce que moi j'ai pas de moyens pour vraiment me lancer dans un sport mécanique, tu vois. Mmh. C'est ouais. Vraiment ces sélections là pour me faire repérer.
Mais si tu te fais repérer, t'as quand même bon, t'as envie de le faire quoi, c'est pas juste voilà. Mmh.
Non, je me fais repérer mais en fait non, j'ai pas envie. Écoute, je suis désolé Stefano, je suis pas disponible pour remplacer Felipe, je suis pas disponible. J'ai pas rien.
D'ailleurs, après le Castellet, tellement j'étais chaud que j'ai envoyé mon CV à Ferrari, tu sais, à Maranello direct.
Alors, est-ce qu'ils t'ont répondu, ne serait-ce qu'une lettre polie en disant oui, on en a pas besoin?
Je l'ai envoyé lundi, déjà, faut 4 jours pour qu'elle vienne.
Ah oui.
Alors, on verra.
Tu nous tiendras au courant, ouais. Alors.
Non, mais donc, ma télémétrie, des photos et tout, pour montrer que je mens pas et tout.
Parce que du coup donc qu'on revienne un peu sur Lotus, t'as gagné donc la finale micro-race. Je crois que vous étiez 4.
Oui. Alors
il y avait 2 Français, 1 Russe.
Oui. Alors parce que normalement on était 25 000 joueurs dans le monde entier et les 4 premiers sur le circuit de Spa et ils devaient faire la finale à Paris. Du coup on était 2 Français et 2 Russes.
C'est les anciens fans de Vitaly Petrov.
Ouais, ouais.
Ils sont restés fidèles à Lotus, mais bon. Et alors, ça s'est passé comment la finale? D'abord, comment est-ce que ça se passait en vrai? Et puis.
Alors, en fait, déjà, ce qui s'est passé, c'est que déjà une semaine après les résultats, ce qu'ils nous ont fait, c'est pendant 4 jours, ils nous ont offert l'hôtel à Paris, un hôtel Saint-James 4 étoiles à Paris. Pendant 4 jours, on est allé à l'atelier Renault, on a mangé avec des grandes personnes de chez Total et de Renault surtout. On a découvert, parce qu'il y avait un circuit secret.
Oui.
On allait faire un championnat et il y a un circuit secret qui allait que être dévoilé le jour de la finale.
Oui, le Moon Race, là.
Moon Race. Bon, ils nous ont expliqué le déroulement pendant 2-3 jours, surtout, en fait. On a fait les portraits vidéo, plein de choses comme ça. Et le mardi, le jour de la finale, alors on est arrivé, c'était dans un ancien garage qu'ils ont aménagé pour des conférences, des trucs comme ça. Il y avait qui? Il y avait Denis Brognard.
Oui.
Lafitte, Romain Grosjean, D'Ambrosio. Normalement, il y avait Prost qui devait venir, mais il n'est pas venu. Olivier Panis. Il y avait des ingénieurs de chez Lotus. C'est parce qu'ils nous ont mis un simulateur de conduite F1. Ils nous ont mis aussi le Batac.
Oui. Pas qu'Alonso est super balèze à ce jeu-là.
Voilà. Après, sinon, la finale, ça a commencé. Il y a eu 13 courses. 2 sur chaque circuit et 3 sur le Moon Race. Du coup, après ils ont réparti les points, genre le premier gagne 9 points, le deuxième 6, le troisième 2 ou 1, et les points étaient doublés lors du circuit de Moon Race.
Ouais, vous le maîtrisiez un peu moins peut-être.
En fait, il était plus facile qu'un autre, par exemple, que je trouvais qu'il était plus facile que Singapour. Il était plus simple.
Ouais. Ouais.
Parce que sur le jeu de Singapour, tu touches le mur, la voiture elle s'arrête net, tu vois.
Ouais.
Après sinon en tout j'ai fait 6-7 victoires et après j'étais tout le temps deuxième en fait. Du coup c'était bon.
C'est bien. Ah,
t'as un peu fait l'épicier quoi.
C'est bien un fun d'Alonso.
Oui, il a fait 6-7 victoires, c'est une surprise quand même hein.
Du coup même déjà avant d'avoir fini le championnat, je savais déjà que j'avais déjà assez de points en fait, que c'était impossible pour les autres de me rattraper. Du coup j'avais moins de pression que les autres.
C'est tout le contraire d'Alonso, tu vois. Alonso, maintenant, il sait qu'il a pas assez de points, donc il peut pas respirer. Et donc après, c'était rendez-vous le Castellet.
Donc après, direct, après avoir fini la finale, direct avion, direct à côté d'un hôtel du Castellet. Et puis toute la journée au Castellet de 8h à 18h, encadré par tous les ingénieurs de la Lotus F1, ils m'ont fait essayer une Mégane RS pour faire la reconnaissance du circuit. Après on est passé en Formule Renault 2 litres, c'est pas mal aussi, ouais. 400 kg pour 2 chevaux, moi j'aime bien. Et puis l'après-midi, le stage F1, Ouais. Et on est passé aussi en biplace avec Romain Grosjean. J'étais derrière lui avec Romain Grosjean et il était en F1 et il a fait le tour. C'était cool. Bon, après.
Mais justement, les sensations, toi, est-ce que t'en as piloté? Enfin, ils appellent ça des F1, mais, t'as juste fait de la biplace ou t'as aussi piloté?
Non, j'ai conduit la Formule Renault et la F1.
D'accord.
Par contre, c'était un V10 dessus.
Ouais. Ouais.
Donc, c'était un V10 de 2002, je crois. Du coup, alors, on avait, un embrayage et on accélérait et freinait avec le même pied.
Ah ouais.
Alors pour vous donner une idée, par exemple, l'embrayage est plus dur qu'une pédale de frein sur une voiture ordinaire.
Ah d'accord. Mais tu peux pas comprendre si tu n'as pas ton permis. Laisse parler les pros, s'il te plaît.
Ils nous ont bridé les voitures à 250 km/h.
Oui, bon, c'était pas mal.
Et on pouvait que utiliser l'accélérateur pour moi à 80%, tu vois. Je pouvais pas taper à 100 dedans, tu vois. 100% de l'accélération. Mais t'as quand même des bonnes sensations. Le fait d'arrêter une voiture à 250 km/h en moins de 80 mètres, t'as l'impression de tomber dans le vide, tu sais.
Ouais.
Ouais, c'est cool.
Et en termes d'accélération.
Ça, c'est souvent ce que disent ce test, c'est le, pas, bon, l'accélération.
Oui, mais c'est plutôt le freinage.
C'est le freinage, oui, qui est très impressionnant.
Ouais. Après l'accélération, bah non, en fait, on était lancé, on n'était pas là à faire des pas arrêtés et faire le 0 à 100 en 3 secondes. Non, on partait. Et sinon, à partir de 180 km/h par là, t'as le casque qui commence à tirer vers en hauteur, tu vois.
Ouais.
Il tire et ça c'est physique quand même. Mais je trouve quand même que par rapport au karting, au 125 à boîte, que le kart c'est plus physique que la F1. Parce que tu vois, t'es pas attaché, tu vois. T'as tout le corps qui bouge, t'es balancé sur le baquet à gauche ou à...
Et puis même dans le karting, le corps aussi, enfin le mouvement du corps joue un rôle dans le pilotage.
Là aussi. En karting, je peux avoir jusqu'à 3G par exemple, max, grand max. Ouais. C'est pas mal, tu vois. Et t'es pas attaché, tandis que l'autre, vraiment dans la F1, c'est juste la tête qui bouge. Tout le reste, c'était vraiment bien collé.
C'est comme les crevettes, il y a que la tête qui bouge.
Bon, après, sinon, ce qu'ils nous ont montré aussi, c'est des pièces actuellement mises sur la Lotus F1, montrer le volant comme quoi ça ressemble comme une Game Gear, il y a plein de boutons que ça.
Oui, c'est impressionnant les volants.
Un bijou ce truc, ça coûte plus de 100 000 euros. Et par contre, par rapport au disque de frein, j'étais choqué quand même parce que c'est large quand même. Et tu le prends et c'est tout léger, c'est plus léger qu'un disque de frein de moto qui est petit. Ouais. C'est vraiment et pareil, les triangles de direction, ils peuvent avoir une pression de 50 tonnes dessus et ça cède pas. Hein. Et pourtant, ça fait moins de 1 cm d'épaisseur. Après, sinon aussi pour faire du lest, ils nous ont passé une petite plaque de 10 cm carrés et là tu te fais avoir parce que en fait la plaque elle pèse 15 kg, tu vois.
C'est l'inverse, tu vois, c'est t'as des trucs super imposants qui sont légers.
Donc, ils te mettent les échappements dans les mains, tout ça, c'est hyper léger. Et là, la petite plaque, là, de 10 cm carrés, d'un coup, hop, elle tombe par terre, tu sais pas pourquoi, elle fait 15 kilos, la truc.
Et ça t'a donné donc envie de peut-être un peu plus te diriger vers cette voie-là?
Bien sûr, bah, juste après, direct, ils m'ont filé les télémétries et tout. Moi, j'ai pris mes télémétries, j'ai fait une lettre de motivation que j'ai envoyée à Maranello direct.
Hein. T'es le futur Bourdet de la F1.
Bah, c'est ce qu'ils m'ont dit, là.
Ouais. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que Mathieu a des lunettes et tout, et il y a notamment une photo de lui, sur Internet où on le voit avec le casque et les lunettes, et c'est vrai que sur le coup, on se dit, ah, tiens, Bourdet.
J'ai mis cette photo sur Facebook, même je crois que je te l'ai envoyé, et, on m'a dit direct, oh, bah, Bourdet ou Villeneuve.
Oh, choisis bien, hein.
Parce qu'il nous expliquait, ah oui, nous on n'avait pas exactement le même volant, sur la F1. Nous, quand on passe, vu que c'était de, ouais, bah 2002, pareil, je crois, il était tout simple, il y a quoi, 4 boutons ou un truc comme ça, et les palettes derrière. Aujourd'hui, sur un volant de Lotus, il y a 6 palettes derrière. Tu rétrogrades, tu passes la vitesse, tu peux choisir la répartition des freins, et il y a 2 autres palettes, mais je sais plus c'est quoi. Et par exemple nous en 2002 on avait une seule palette et en fait c'est comme elle est une sorte de balancier, je sais pas si tu vois. Ça fait que si tu passes, t'appuies avec ton doigt de la main droite, tu passes la vitesse. Mais si tu le pousses, tu rétrogrades en fait.
Ah d'accord.
Et ça en fait aujourd'hui maintenant c'est la palette elle est toute seule, tu vois, tu passes, il y a plus le mouvement de balance.
Ouais.
Sinon, il y a plein de choses, ce qu'ils nous ont dit. Par exemple, moi, ma télémétrie, ils m'ont dit que tu vois, toi c'est bien, tu accélères progressivement, tu vois, tu ménages le moteur. Tu nous dis, tu vois, Grosjean, lui, il tape direct, ça fait des courbes verticales, c'est pas bon, tu vois.
Alors écoute Grosjean, tu écoutes bien l'émission, d'accord? On sait que la dernière fois, on t'a laissé un petit peu sur ta faim en Belgique, mais là, t'écoutes bien, on va te donner des conseils sur ta télémétrie.
Tu vois, il m'a dit, tu tapes dedans, c'est pas bon, tu vois. Toi, c'est bien progressif. Et ce qu'il a dit, on l'a rappelé plusieurs fois, Grosjean, mais il n'écoute pas forcément nos conseils. Et il m'a dit ça direct.
Grosjean, il apprend pas de ses erreurs. Dis donc. Mince alors. Alors justement sur Grosjean, parce que bon, c'est un peu, tu l'as rencontré il y a une quinzaine de jours, il revenait de Singapour, il venait de reprendre la piste, enfin il venait reprendre en course après sa suspension de Monza. Comment est-ce que toi tu l'as senti?
Je dirais il t'écoute mais sans plus, tu vois.
Ouais.
Tu vois, tu lui parles et en même temps il va écrire un SMS, tu vois.
Ah ouais.
Tu vois. Donc moi ça quand par exemple Olivier Panis tu lui parles, tu sais, il te répond et tout, mais là peut-être je sais pas, vu que avec le décalage horaire comme il est venu direct, je crois il était fatigué ou quoi ou
ouais, et puis il voulait envoyer un petit message à Marion.
Non, et par exemple tu veux lui parler et direct tu vois, tu le vois plus, il disparaît. Tu sais pas où il est. Il y a ça, tu le vois, toi, mais comme un éclair, tu vois, tu le vois une minute et après tu le vois plus, tu sais pas où il est. Sinon, j'ai pas eu trop l'occasion de lui parler, bah, comme ça. Plus quand même avec les autres personnes comme Margot et Olivier Panis, Denis et tout ça. Sinon.
Et donc, du coup, tu nous parlais de 2013 et 2014, t'as un petit peu éveillé notre curiosité.
Ah oui, donc, alors, il nous disait que, alors, on lui a posé des questions, tout ça, et ils nous ont dit, alors, on lui pose, alors, vous, il y aura un pilote champion du monde, Kimi Räikkönen, il fait, ah non, franchement, cette année, on sera pas dans le coup, hein. Il l'a dit, hein. Avec Kimi Räikkönen, on sera pas dans le coup. Même peut-être essayer d'avoir la troisième place au championnat des constructeurs. Bah oui, c'est sûr. Là, pour l'instant, la target c'est Alonso. Là, on voit à Spa et là aujourd'hui là.
Ah bah là aujourd'hui, ça a été la cible. Hein,
ah si.
De Kimi Räikkönen.
Éliminer Alonso parce que normalement Massa d'habitude il gagne pas beaucoup de points, tu vois. Mais aujourd'hui là, il était bon là. Ouais. Donc voilà, et alors sinon pour la voiture de l'année prochaine, elle sera quasiment similaire, hein. Peut-être quelques changements, mais surtout ils travaillent pour 2014 avec les V6. D'ailleurs, vous en pensez quoi là, de passer du V10 après V8, V6, après ça va devenir quoi? En 2015, on aura des moteurs de Toyota Prius, là. C'est pas possible.
Le V0.
Là, en 2016, là, on va passer aux 4 cylindres. C'est pas possible.
Moi, je reste convaincu que je m'intéresserai quand même à la Formule 1 avec un V2, tu vois.
Ouais.
Ouais.
Ouais. V2 Ferrari. Wow. Je suis pas sûr que Luca Di Montezemolo soit d'accord. Ce sera plus des Formule 1, ce sera des Solex.
Ah, déjà, ça va faire bizarre, par exemple, dans la ligne des stands où ils seront sur du full électrique. Ça va faire bizarre. Après, voilà, j'attends de voir notamment tout ce qui est son et tout ça, parce que pour l'instant, certains l'ont déjà entendu, mais nous, on ne l'a pas encore entendu. Même si bon.
Peut-être que Mathieu l'entendra bientôt. Hein.
C'est pas impossible.
Ça se trouve, il va recevoir une lettre de Stéphano, il va dire, d'accord, vas-y, viens, on est trop désespérés. Allez, viens. Faut qu'on remplace Alonso, on n'en peut plus.
J'avais faim de me faire de la pub. Non, mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Là, en ce moment, ils ont 150 kilos de carburant, et qu'en 2014, ça passerait à 100 kilos.
Bah, c'est vrai que c'est un petit peu le but aussi, ce nouveau moteur, c'est, faut toujours un peu le rappeler, mais c'est d'essayer de consommer moins et de donner, en tout cas, une image plus verte. C'est un 1,6 litre, aujourd'hui, c'est un 2,4 litres. Et puis le turbo permet effectivement de moins consommer, donc.
Franchement, ils ont dit, nous, on attend 2014. Hein.
Oui.
L'année prochaine, faut pas espérer Lotus champion du monde.
Et donc, si toi, t'avais par rapport à ton parcours, si t'avais un conseil à donner à des jeunes ou moins jeunes qui souhaitent aujourd'hui avoir des expériences de course, qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là tout de suite? Ils écoutent l'émission. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire tout de suite?
Ouais, alors, ce qu'il y a, c'est que il faut avoir les moyens déjà. Ça dépend ce que tu veux lancer. Moi, perso, j'ai pas les moyens, tu vois. Donc, c'est pour ça que je fais des sélections pilotes. Après, sinon, il y a des sélections pilotes, mais en Formule Renault. L'inscription, c'est 1 700 €, tu vois. Et ouais. Si tu gagnes, t'as une bourse de 60 000 €, la bourse sert à t'entraîner, tu sais, en Formule Renault, tout ça, le but d'atteindre la F1, tu vois. Mais bon,
ouais.
Mais 1 700 €, bah, allez sortir, quoi. Déjà, 60 €, moi, ça me fait mal.
Donc, du coup, on va revenir à la F1. Et on va revenir à l'actu F1. Je vais te soumettre au pour pas pour. Et donc, alors le pour pas pour, je rappelle juste vite fait, ce sont 10 thématiques de l'actualité récente. Voilà, à chaque fois tu nous dis si tu es pour ou pas pour. Tu n'as pas le droit de dire contre. Sinon, on rappelle Kimi Räikkönen et il désosse encore une fois.
Mais arrêtez, c'est en fait course.
Non, j'ai dit, il a failli te tuer. Je dis ça, mais en fait, je m'en fous. Alors, Mathieu, est-ce que tu es prêt?
Vas-y.
Alors attention, pour ou pas pour Kovalainen chez Caterham en 2013?
Pour.
Pour ou pas pour F1 2012?
Je comprends pas la question là.
Est-ce que tu es pour ou pas pour F1 2012, le jeu de Codemaster?
Ah, moi je suis pour là.
Ouais, parce que, attention, hein, c'est un jeu qui fait polémique. Pour ou pas pour le retour du Grand Prix de Turquie?
Pour.
Pour ou pas pour le retour de Rémi Alguersuari en Formule 1?
Vas-y, pas pour.
Ah, attention, alors là, la question très importante, pour ou pas pour la Moussaka? Oui, ça n'a aucun rapport avec la Formule 1, mais c'est une question existentielle, fallait y répondre.
C'est quoi ça, la Moussaka?
C'est, tu sais, c'est l'espèce de gratin d'aubergine, hein, un truc grec, turc, ouais.
Ah, pas pour.
Pour ou pas pour Nicolas Prost aux essais jeunes d'Abu Dhabi avec Lotus?
Vas-y, pour, vas-y.
Pour ou pas pour l'arrivée de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2013?
Pour.
Pour ou pas pour le départ en retraite de Michael Schumacher?
Pour.
Pour ou pas pour le V6 turbo à partir de 2014?
Pas pour.
Et enfin, pour ou pas pour l'organisation d'un Grand Prix en Thaïlande? Pas pour. Alors au total, il y a 4 pas pour et 6 pour. Alors tu peux revenir sur 3 sujets de ton choix.
D'ailleurs, c'est quoi la polémique sur F1 2012? Je veux bien voir c'est quoi là.
Ah, c'est pas qu'il y ait une polémique, mais c'est que il y a les djihadistes
de R Factor.
Voilà, de R Factor et de Project Cars et compagnie, des simulations sur ordinateur qui disent ah il est tout pourri ce jeu. Et puis il y a les gens un peu normaux comme nous qui disent ouais bon on s'en fout, c'est bien F1 2012. Voilà, mais c'est intéressant d'avoir justement le point de vue de quelqu'un qui a touché un peu du doigt et a vécu les sensations d'une Formule 1. C'est intéressant de voir que finalement bah voilà F1 2012 t'aimes bien quoi. Enfin tous les jeux de console de F1 t'aimes bien.
Oui oui. Je sais pas moi le jeu F1 2012 ça ils font que de s'améliorer hein, depuis parce qu'en fait de 2006 à 2010 il y a quasiment rien eu en fait. Et bon après ils ont fait que d'améliorer de 2010 à 2012. Après sinon il y avait une année où Ferrari avait développé un jeu, ça s'appelle Ferrari Academy, avec une Formule 1, et genre tu faisais le meilleur tour, et je crois ils ont sélectionné 6 personnes, et ils ont pu conduire sur Fiorano en vrai.
Ah ouais. Oh, la classe.
Et par contre c'était avec des formules à barque.
Sinon est-ce que tu as une autre news sur laquelle tu voudrais revenir?
C'est quoi les autres?
Alors Kovalainen chez Caterham, le Grand Prix de Turquie, Rémi Alguersuari, la Moussaka, Nicolas Prost, Lewis Hamilton, le départ en retraite de Schumacher, le V6 Turbo, mais on en a peu, bah non, on n'en a pas parlé, et la Thaïlande.
Le V6 Turbo, bon, c'est pas une nouveauté, il y avait déjà des V6 Turbo avant. Renault avait déjà. Tu sais, l'année où genre tout le monde avait leur propre moteur, t'avais les V6, les V8, c'est tout le monde était mélangé.
Ouais.
Bon, je sais pas ce que ça a donné parce que je crois à l'époque c'était. Il y avait une bagarre entre une Ferrari, une Renault, un V6 Turbo et un V12 Ferrari. Je sais pas si tu la vois là. Pendant 3 tours et 3 derniers tours de la fin.
Ah bah c'est à Dijon.
Ouais voilà.
Villeneuve et Arnoux.
Mais toi concrètement, qu'est-ce que t'en penses? Tu nous as dit que t'étais pas pour. Pourquoi t'es pas pour?
Moi, je veux retrouver les V12. Hein. Sérieux. Déjà le bruit et tout ça, c'est autre chose. Hein. Moi.
Mais il n'y a pas que le bruit dans la vie, il faut aussi penser à l'atmosphère, aussi penser aux petits oiseaux et aux arbres.
Ouais.
Je suis pas sûr que je vende bien ma cause en
carrément.
Disant
ça
comme ça. Non, moi, les V6, ça m'enchante pas trop. Là. Pourtant, ça va être aussi performant qu'aujourd'hui, hein, avec le moteur électrique, tout ça, on va retrouver 700 chevaux. Après, comme je t'ai dit, ça se trouve après, toi tu voulais des V2, ça se trouve dans 5 ans ça va être des 4 cylindres et en 2025 ça va être les moteurs électriques de Toyota Prius.
Mais c'était le projet initial en plus, c'est que ça devait être des 4 cylindres au départ. Putain. Et en fait c'est Ferrari, ils ont dit oh faut pas déconner quand même. Ouais. Déjà nous le V6 on connaît pas. on va pas passer du V8 au V4, c'est pas possible.
Non après un 4 cylindres ça peut être performant mais ça va faire quoi? 270 chevaux max. Après, va-t-il penser pour les 700 chevaux.
Rajoute 15 turbos sur le moteur.
Je veux dire un truc aussi, c'était par rapport au moteur, que en fait, il y a 4 équipes qui ont le moteur Renault. Et moi, je voudrais que, en fait, c'est que chaque équipe fasse leur propre moteur. Là, ce sera autre chose. Parce que quand les gens qui ont l'autre écurie qui a le moteur Ferrari et qui finissent avant mieux placés que Ferrari, c'est qu'il y a un problème là. C'est pas possible.
Ah, c'est que il y a une conception de châssis qui est différente.
Ah, mais, par exemple,
comment dire,
ouais, Red Bull fait son propre moteur, ça, ce sera pas la même chose. Hein.
Ah la vache, l'horreur. Imagine le moteur HRT. Un moteur V2. Lui, vraiment. Bah non, désolé. On a développé un V6 biturbo, puis en fait, on avait que de l'argent pour faire un V2. Mais il y aura quand même un turbo dessus, hein, mais simple. Parce qu'on n'a pas les moyens d'en faire deux, en fait. Donc voilà. Et enfin, une troisième actu sur laquelle tu voudrais revenir?
Sur le départ de Schumacher.
Ah.
Ouais.
Tu regardes depuis quand la Formule 1?
Bah, moi, déjà, même avant 7 ans. Je regardais déjà la Formule 1. Tu
vois. Ah, d'accord.
D'ailleurs, je vais te raconter un truc. C'est que en 2000, sur le circuit de Spa-Francorchamps, je sais pas, c'était Schumacher-Hakkinen.
Ouais.
Tu te rappelles de...
Oui, avec Zonta dans le rôle de la saucisse et Schumacher-Hakkinen dans le rôle des petits pains.
Ouais. Et ce jour-là, tu vois, j'avais 7 ans, j'avais regardé le Grand Prix et j'étais tellement dégoûté, tu vois, que à la fin du Grand Prix, j'ai pleuré, tu vois. Et mon grand-père, tu vois, il a une Mercedes.
Ah, j'ai crampé.
Il m'a titillé et tout ça. Ouais, t'as vu, Mercedes l'a gagné contre Ferrari et tout ça. Et ben, je suis descendu, j'ai pris des cailloux et je vais casser toutes les vitres.
Ça, Michael, c'est un fan. Moi, sincèrement, je vais envoyer une lettre à Maranello, leur dire attention. Le petit Francesa, là, je vais l'engager. Il a quand même pété les vitres d'une Mercedes juste parce que Schumacher l'avait perdu. D'ailleurs, ça serait pas toi qui lancerais des petits cailloux sur la Mercedes depuis 3 ans? ça se trouve, c'est ça le problème de Schumacher, c'est qu'il y a un gamin au bord de la piste qui lui balance des petits cailloux.
Non, voilà, voilà l'anecdote.
Et donc sur Schumacher?
Donc Schumacher, je pense que faut qu'il s'arrête, hein. Il est pas au niveau des autres pilotes de la même écurie. Et je trouvais que déjà 2006 et tout ça, c'était fini, hein, quand même. N'empêche, là, je me dis, là, c'est vraiment officiel. Là, il prend sa retraite.
Ah,
durant la semaine, on savait pas trop. Et je me dis, imagine, il va remplacer Massa et tout. Schumacher, Alonso.
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, Ferrari, ils ont communiqué, donc il a annoncé ça jeudi matin, je crois. Et ils ont communiqué genre une heure avant en disant, non, mais on n'a pas envisagé Schumacher. Et Schumacher, juste derrière, fait l'annonce. Alors, on sait qu'en fait, il a prévenu Mercedes au dernier moment. Genre, on va 5 minutes, il dit, voilà, je vais faire une conférence de presse. 5 minutes au moment de convoquer la conférence de presse, il appelle Mercedes en disant, je prends ma retraite.
Voilà. D'ailleurs, en pensant au CV que j'ai envoyé, vu que on sait pas trop le futur de Massa, je trouve que j'ai bien envoyé la lettre au bon moment, tu sais.
Ouais. Bah, c'est pas sûr. Parce qu'il vient de faire deuxième, Massa.
Ouais, ouais. Bon, voilà.
C'est pas mal pour un ancien borgne. Oh, c'est bon, Shinji.
Et Shinji, t'as vu mon top 10?
Oui, oui, non, mais on y reviendra.
Oh, toi, t'as mis Alonso.
Attends, ne dites rien.
Donc, sinon, quelle est l'actu des dernières semaines dont tu n'as strictement rien eu à foutre, mais vraiment, vraiment rien eu à foutre?
Là, les essais, le retour d'Aguilar série, surtout ça. J'étais même pas au courant.
Bah, apparemment, lui, non plus. C'est-à-dire que, il y a quand même encore 2 semaines où il dit, je serai de retour en 2013, il n'y a pas de problème, je vais revenir, j'en suis certain. Et puis là, il dit, j'ai encore rien signé. Puis, en fait, il va nous dire dans 2 semaines, en fait, j'ai vu personne. Mais il se prépare, hein. Je crois qu'il a arrêté là de commenter, il a décidé qu'il ferait pas la fin de saison pour le compte de la BBC, où il est commentateur sur une des radios de la BBC, pour se préparer physiquement. Le mec est quand même à fond.
Prépare-toi à tes platines.
Ensuite, quelle est l'actualité hors Grand Prix que tu aimerais lire dans les prochaines semaines?
Mathieu
Franciosa chez Ferrari en 2013.
Qu'est-ce qu'il m'a dit, Elder? Il m'a dit en 2015. Il a écrit sur le Twitter de Ferrari, de Alonso, et dit, j'ai un pote à vous montrer, il a pris ma photo. Il a mis sur le Twitter d'Alonso.
Non, ils ont pas pris Perez, ils vont pas te prendre toi. Je suis désolé, mais...
Pas tout de suite. Ils ont dit, qu'il était pas prêt. Hein. Donc,
voilà.
Mathieu, il est pas prêt, mais ça veut pas dire qu'ils ne le prendront pas.
Moi, je voulais l'année prochaine, genre, qu'ils prennent la place de Massa. Et, McLaren, ils l'ont pris avant.
Mais en fait, il commence à se murmurer, notamment, j'ai lu un article dans Autosprint en Italie, où ils disent qu'en fait, tout simplement, peut-être que le choix de Ferrari, c'est que tout simplement, ils croyaient pas en Perez. il a déjà fait des essais, et peut-être qu'ils ont des chiffres qui leur permettent de dire aujourd'hui que Pérez n'est pas prêt, ou que c'est pas le pilote qu'ils cherchent, et surtout que c'est le révélateur que Ferrari n'a jamais pensé à Pérez, tout simplement parce que il pense à un autre pilote en ce moment, voilà, et que prendre Pérez ça les intéresse pas, parce que ils ont Alonso pour le moment, ils sont contents, et qu'ils savent déjà qui ils vont prendre après, donc voilà, ils avaient pas envie de s'encombrer avec Pérez, et ils sont peut-être pas finalement plus mécontents de le voir partir ailleurs. Donc alors, quelle actualité tu aimerais lire dans les prochaines semaines?
Là, franchement, je sais pas.
Bon, c'est peut-être plus facile si tu nous disais l'actualité que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines.
Le prolongement de Massa pour une nouvelle année chez Ferrari.
Ah, tu risques d'être déçu.
Et toi, tu mettrais qui à la place aujourd'hui?
Peut-être Hülkenberg.
Et enfin, est-ce que tu aurais un drive-through of the race of the weekend à mettre à un pilote, à une écurie, à n'importe qui en Formule 1?
À Lotus.
À Lotus. Et pourquoi donc?
Parce que leur target, c'est Ferrari.
T'as un incident de course, quoi.
Red Bull, ils font la gueule, là. Là, ils veulent bannir Grosjean, là.
Autant sur le gros incident qu'il y a eu en Belgique, on va dire qu'il y avait une relative retenue, on va dire, du monde de la F1. Hein. Mais alors là, les langues se délient, on a l'impression.
Cette fois qu'il finit pas la course, hein, quand même.
Puis c'est souvent des incidents au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai pas non plus envie de me jeter sur Grosjean. J'ai défendu à Spa. Et
voilà. Mais en même temps, voilà.
Enfin, il faut quand même reconnaître que là, il s'est quand même fait sérieusement taper sur les doigts. Là, ça recommence.
C'est ça le truc. C'est
ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Quoi.
Voilà. Et nous, on l'a défendu. J'ai un peu peur pour lui. Il a été pénalisé. Il revient et il refait la même chose.
Il suffit pas de dire, et c'est pour ça aussi ce qui explique qu'il a pris un stop and go et pas Senna pour des fautes un peu plus similaires. C'est tout simplement aussi c'est ça quoi, c'est l'accumulation. Il commence à payer par effet d'accumulation. Déjà à Singapour, Weber l'avait prévenu et l'avait intimidé. Et c'est là où c'est peut-être le plus dangereux pour lui, c'est que maintenant les mecs vont même plus avoir peur de lui quoi. Ils vont lui rentrer dans le tas et c'est pas bon quoi, c'est dommage.
Et puis ça risque de s'aggraver, c'est-à-dire que rien ne dit qu'une prochaine fois ce sera pas directement un drapeau noir.
Oui,
parce que là,
puis rien ne dit que Lotus va lui renouveler sa confiance pour l'année prochaine.
Oui.
Parce que là encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, Mathieu, l'objectif de Lotus c'est quand même d'essayer d'avoir la troisième place. Elle est sincèrement à leur portée, à condition que les deux pilotes fassent correctement leur travail.
Alors, quand tu nous dis qu'en plus ils écoutent pas forcément les conseils,
voilà, quand tu regardes Grosjean, ce qui coûte comme point en ce moment à Lotus, c'est beaucoup quand même.
Parce que quand les ingénieurs te donnent des conseils, que quand t'as un nombre de moteurs par saison, direct. Après le truc sera rincé au prochain Grand Prix.
Et donc toi, Shinji, tu as un drive through?
Oui, j'en ai un petit parce que j'avais pas envie de taper sur l'ambulance. Je savais que entre guillemets, on en parlerait.
J'avais pas envie de taper sur Kimi. Oh, c'est étonnant.
Mais non, mais pourquoi sur Kimi?
Parce que Kimi, il a failli tuer Fernando.
Non, moi, ce qui m'amuse un peu, c'est tu sais, il y a le fameux What will do? Qu'est-ce qu'il va faire? Et on lit parfois mais des trucs. Non mais. Arrêtez le délire. Tu vois des trucs. Ouais, est-ce qu'il pourrait aller chez Sauber? Ça encore à la limite un transfert, quoique bon. Mais tu vois des trucs genre oui, il va repartir en rallye, il va devenir team manager. Non mais les gars, c'est les contrats, surtout les contrats en F1, c'est un truc sérieux, c'est pas la Starac. On n'annonce pas un mais non mais
tu dis ça. Tu veux qu'on te rappelle le contrat de Kimi en 2009, hein?
Non mais je veux dire
ce qu'on veut des contrats.
Je veux dire le dans le fait de l'annoncer, on préannonce pas un changement de d'équipe 10 jours avant.
Surtout en plus si c'est
surtout en plus quand le truc est repris sur la page officielle de Lotus.
Oui. Moi, je pense que ça concerne peut-être pas Lotus directement, c'est peut-être un sponsor, une évolution du partenariat.
Carrément, alors je vais peut-être passer pour un con dans 10 jours, hein, mais en effet, oui, je pense que c'est plutôt un truc marketing avec un sponsor, un truc vraiment con, enfin, ça se trouve, ça va être Angry Birds Kimi, un truc comme ça, hein, ça peut ouais. être des choses comme ça. Donc voilà, c'est foutu drive-through, voilà, faut pas non plus commencer à s'enflammer, il sera chez Lotus l'an prochain, et puis... voilà, oui, il va peut-être avoir sa marque.
Il sera chez... Non, il sera chez Lotus, Shinji, si Alonso est d'accord.
Pourquoi si Alonso est d'accord? Il a rien à...
C'est Alonso qui décide de tout.
Peut-être qu'il va avoir sa marque.
On est bien d'accord, Mathieu, c'est Alonso qui décide de tout maintenant en Formule 1. Voilà. Alors, tu fais attention, parce qu'on peut t'envoyer Alonso. Hein. On peut t'envoyer Grosjean et Alonso.
S'il y a Grosjean, ça commence à me faire peur.
Tiens, d'ailleurs, Grosjean, quand on revenait de... du circuit de Castellet pour repartir sur Paris. On a pris l'avion ensemble et tout ça. Et dans le van, il parlait du code de la route. Alors, je sais pas s'il a le permis ou quoi. Il fait, est-ce que moi, j'ai fait cette faute et tout ça? Je sais même pas s'il a le permis.
Ça serait énorme.
Et toi, Dino, tu as un drive-through?
Oui, ça me fait mal de le mettre, mais je suis obligé de le mettre. Ça sera un drive-through à l'intention de Michael Schumacher. Parce qu'il sort par la petite porte, et surtout c'est par les explications qu'il donne dans son annonce de départ en retraite, où il dit en 2006, j'avais besoin de recharger les batteries et compagnie, mais là elles sont totalement vidées et compagnie. J'ai besoin d'arrêter, ça va me faire du bien et compagnie. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu as attendu que ce soit Mercedes qui te foute dehors? Enfin, ça c'est un petit peu ça l'image qu'on a à la fin. C'est qu'il a été contraint, donc ça sent quand même un peu soit le mec qui était complètement dans le déni et qui attendait vraiment vraiment l'extrême limite pour prendre sa décision, la preuve qu'il était peut-être pas forcément autant épuisé que ça, soit le mec qui simplement cherche des excuses pour essayer de sauver un petit peu sa sortie en disant non mais voilà je suis fatigué et compagnie. Voilà, moi je trouve je vais peut-être avoir un mot fort, mais je trouve que sa sortie en tout cas dans son discours était un peu pathétique. C'est plus un truc de colère de l'ancien fan qui dit pourquoi Michael tu t'imposes ça quoi, pourquoi c'est une sorte d'humiliation un septuple champion du monde qui se fait pousser vers la sortie comme ça. Autant à l'époque de Ferrari, bon, on sait qu'il s'est un peu fait pousser par la sortie, mais il y avait du vernis autour, donc c'est la communication, tout avait bien fonctionné. Autant là, bah, il a donné le bâton pour se faire battre. Et derrière, il dit, oui, mais de toute façon, j'avais envie de partir. Bah oui, mais non, Michael, t'avais envie de partir. T'aurais dû parler avec Mercedes, te mettre d'accord dans la communication. T'aurais annoncé avant ton départ en retraite et après, ça se faisait, quoi. Puis au moins, tu sortais grandi, tu sortais digne. Là, tu sors un peu à la Barrichello, quoi. Et c'est pas top.
Mais si on va passer à la course, au week-end de course.
Au 10 premiers tours, j'ai dit.
Bon, fondamentalement, c'est quasiment ça. On commence par les qualifs, avec comme place du con, Bruno Senna, 18e.
Bah bloqué par, enfin gêné par, oui. Visiblement par Vergne. Alors je sais pas, moi j'ai pas suivi les essais libres, parce que c'est
du temps. Parce que tu dors, tout simplement, comme tout le monde.
Mais apparemment, il était pas trop mal lors des essais. Et en fait, en qualif, bah voilà, ça a pas passé parce que, à cause de Vergne, visiblement.
D'ailleurs, donc en Q2, bon, c'est habituel, hein, Ricardo et Vergne, 16-17. Bon, c'est habituel, hein, pour les Toro Rosso. Nico Rosberg, 15. Maldonado, 14.
C'est habituel pour les Mercedes.
Ah, c'est devenu habituel quand même pour les Mercedes.
À ce moment-là, t'as envie d'envoyer un SMS, tu vois. Moi, je serais Sergio Pérez, j'enverrais un SMS à Hamilton. Bonne saison! T'as vu, Nico, il est 15e.
Puis, Schumacher fait 13, hein, donc c'est pas beaucoup ouais. Mieux, on va dire.
Mais non, mais mine de rien, c'est devant Rosberg quand même.
Oui, mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive.
Oui, mais voilà, c'est quand même devant Rosberg.
Tu promets déjà une mauvaise année pour Rosberg l'an prochain?
Ah non, loin de moi l'idée, mais c'est juste que je pense qu'au contraire que Rosberg ça va lui faire du bien d'avoir Hamilton à ses côtés, c'est un autre calibre. Je te dis pas que Schumacher c'est pas le même calibre qu'avec Hamilton, mais c'est juste à un moment donné faut replacer les choses dans leur contexte. Voilà, c'est Schumacher n'est plus le Schumacher qui était il y a quelques années. Je pense que pour Rosberg il a un peu baissé de morale, ben, un peu comme l'an dernier quoi. Il a fait un beau début de saison, puis dès qu'il a vu qu'il pouvait plus jouer, je vais rouler. Quoi.
C'est du Rosberg, quoi. À la 12e place, Paul Di Resta. Et en 11e, Felipe Massa.
Paliparo, qu'est-ce que t'as fait
hein? Oh, ça va, il s'est bien rattrapé.
Ouais, avec les abandons ouais. des autres et tout, les abandons.
Et en Q3, donc Nico Hülkenberg, 10e place. Hamilton seulement 9e. Mais apparemment, c'était pas son week-end hein, pour les Wiss. Hein. Ou des réglages et tout ça. Ouais. Raikkonen, 8e. Lui aussi, apparemment, notamment samedi matin, il a eu pépin.
Ouais, il avait mangé une pomme. Ça.
Alonso 7e.
Tu vois, il aurait mangé des glaces, on aurait dit il avait beaucoup de bâtonnets, mais non, il a mangé une pomme.
Non, Alonso 7e, non, ça vous. Non.
Bah, c'est ce qu'il mérite.
Non, bah, on va passer à la 6e place, Sergio Perez.
Ah, c'est pas mal déjà.
Ah oui.
Bon, après, il faut dire aussi que bon, la Q3 a été un peu perturbée par. Comment il s'appelle ce pilote une espèce de débutant là, qui est parti dans Spoon et qui a fini dans le bac à gravier. Ah, mince. C'est un Finlandais.
Oui, c'est bon.
Krakonen ou un truc dans le genre. Ah. Voilà. Et donc il y a eu un drapeau jaune et ça a un peu amputé la fin, mais après je pense qu'on.
Ça a amputé les 30 dernières secondes.
Oui, un peu les secondes. Mais du coup, voilà, il y a certains pilotes qui n'ont pas pu améliorer. Donc après, je pense que Alonso, il est, enfin voilà, c'était, ça jouait entre la 5e et la 7e place. Ça me semblait assez logique.
Hein, bah la 5e, c'est Grosjean. Ouais. Hein, derrière Kobayashi, donc déjà à la base, hein, très beau de qualif quand même pour Kobayashi. Et donc aux trois premières places, Button 3e, Weber 2. Oui, ça lui arrive parfois quand même. Et donc Vettel. Vettel, apparemment, ça fait plusieurs années de suite hein, qu'il fait la pole au Japon. Hein.
4 ans.
4 ans.
4 ans de suite la pole au Japon. J'ai regardé un peu par curiosité. Ça a déjà été fait 4 poles de suite. Le record, c'est 5 poles de suite, c'est Schumacher.
Ah.
Mais voilà, donc l'année prochaine, s'il fait encore une pole, Vettel, voilà, ça sera 5 poles de suite. Quoi.
Donc par rapport à tout ça, donc Schumacher a été rétrogradé de 10 places pour son accident à Singapour. Button 3e et Hülkenberg qui était 10e ont été rétrogradés de 5 places pour changement de boîte. Et donc Vergne, 17e, a été rétrogradé de 3 places pour avoir gêné Bruno Senna pendant les qualifs.
Et Vettel n'a pas été rétrogradé. Étonnant.
Non.
C'est bizarre.
C'est bizarre, hein. C'était donc la 34e pole position pour Vettel. D'ailleurs, ça a été dit, il rejoint Clark, c'est ça?
Il a dépassé Clark et Alain Prost. Même si je persiste et signe, pour moi, Clark, c'est Monsieur Paul, Monsieur pole position. Et Prost, voilà, il l'a fait un peu parce que... Il y a une longue carrière, mais quand même Clark, faut quand même rappeler, Clark c'est 33 pole positions, 72 grands prix, quelque chose comme 45% des grands prix auxquels il est participé, il s'était lancé de la pole position. Mais voilà, c'est un symbole Clark, c'est quand même quelqu'un qui a eu le record pole position pendant plus de 20 ans. Voilà, puis c'était un homme extrêmement respecté par ses collègues. On peut même peut-être dire que c'est l'un des derniers pilotes qui ait vraiment été respecté par tous les pilotes de Formule 1 de son époque. Donc voilà, c'est une légende de la F1. Quoi.
C'était la 43e pole pour Red Bull, la 199e, donc plus qu'une, pour Renault en tant que motoriste, à une moyenne de 230,135 km/h.
Ouais, même s'ils ont dit qu'en fait, il y avait apparemment une pole position qui avait été faite avec un moteur mécachrome.
Ah bah non, mécachrome, voilà. C'est mécachrome.
Oui, non, ils disent, voilà, bon... Bon, c'est 199 Renault, mais ça serait 200 avec le mécachrome. Oui, bon, vous n'allez pas faire chier, vous allez attendre la 200 de Renault.
C'est bon, elle va arriver, donc.
Je crois que c'est Malbranque qui a dû dire ça en qualif ou je sais pas quoi.
Et donc, dis-nous, on va passer au top 10.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Et donc, le top 10, et d'ailleurs, nous vous remercions, oui. Vous avez été nombreux à participer alors que le délai était court. Nous allons commencer par la 22e position, parce qu'on a envie d'être original, hein. Et c'est Pedro de la Rosa, Neran Kartekir et Petrov qui ont marqué 0 points. À noter que le vainqueur, dont on taira le nom, mais il n'y a pas de surprise,
c'est... Ah non, fallait pas dire.
Ah non, c'est évident qu'il allait gagner, Shinji. Après ce qu'il a fait en course, moi je dis c'est évident.
C'est
donc le vainqueur qui a marqué 1077 points. Donc ensuite, 21e, Timo Glock avec 11 points. 20e, Di Resta avec 27 points. 19e, Rosberg, 25 points. 18e, Bruno Senna, 38 points. 17e, Charles Pic, 50 points. On se demande pourquoi, mais c'est pas grave. 16e, Jean-Éric Vergne, 59 points. 15e, Pastor Maldonado, 77 points. 14e, seulement... Et qui comme Alainen, 99 points. 13e, Ricciardo, 106 points. 12e, Grosjean, 112 points. Alors là, vous êtes pareil, comme dans Automotor Sport, vous fumez de la beuh, oui. Hein, c'est pas possible. Et 11e, Weber, 125 points. À noter, donc, que tous ces pilotes ne marqueront pas de points et que tous les pilotes que nous n'avons pas cités marqueront des points.
Oui.
C'est important.
Dino, tu as donné des points à Kovalainen, t'en as donné 10. Moi-même, j'en ai donné 1.
Ça a l'air ridicule.
Oui, bon, ouais, enfin, en même temps, 10 points, mais c'est bien, on l'a vu, puis bon. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire c'était 11e qu'il devait faire.
Il a été, il devait faire 12e, parce qu'apparemment, après, avec les deux, ouais. Les deuxièmes résultats, ça passait. Mais, il a même été à un moment donné 9e,
oui,
et bon, c'était
points,
la stratégie du relais, compagnie. C'est vrai que sur Suzuka, c'est difficile de dépasser, donc voilà. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis, en fait. Et puis, il fallait être là, fallait être au bon moment, voilà, fallait être opportuniste. Et puis, j'avoue, c'est en fait, moi, ça s'est limité.
En plus, c'est pas mal comme rebond, parce que ça, ils ont perdu cette 10e place il y a que 2 semaines. Oui. On sait que ces équipes-là, elles ont pas non plus toutes les semaines des occasions de briller. Le fait de réussir à rebondir, même si finalement ça n'a pas marché, c'est quand même pas mal, quoi.
Et moi, j'avoue que j'ai que quatre pilotes qui m'ont vraiment. Faut dire que la course était aussi très très prenante. Donc j'ai que quatre pilotes qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Et le reste, j'ai un peu fait un peu entre le classement. Et puis j'ai promu des mecs comme Kovalainen ou sur lesquels j'avais vraiment des trucs à dire. Quoi.
Sinon, pareil, tous les deux, on a donné des points à Ricardo. Moi, j'en ai donné 6. Dino, t'en a donné 8.
Ah bah oui.
Pareil, belle course.
Et puis surtout, il a dit après la course, il a dit voilà, j'ai eu ma bataille avec Schumacher. il va bientôt partir. Voilà, je pourrais mettre ça. Il a dit dans son scrapbook. Donc voilà, il va mettre ça dans son petit journal intime. Il va mettre aujourd'hui, je me suis battu avec Michael et j'ai gagné. Voilà. Et donc c'est cette nouvelle génération. Il fait un bon résultat. Il ramène un point. Il est régulier depuis pas mal de temps et voilà, c'est bien.
Sinon, Mathieu, tu as donné un point à Grosjean.
Et donc, tu fumes de la beuh comme Automoto Rulesport.
Pourquoi donner un point à Grosjean?
Parce que j'ai fait les essais avec lui au Castellet. Je voulais être genre.
Ah d'accord. T'es pardonné. Ok, y a pas de souci, t'es pardonné.
Tu te rends compte, il lui aurait parlé, il aurait mis 15 points. Il lui a pas parlé, il a 15 points.
On va donc passer à la 10e place. Il a marqué 133 points. Et Dino, je te le demande très rarement. Je te demanderai d'accord. De te taire jusqu'à ce qu'il y a un moment où tu estimeras que tu pourras parler. Hein, on est d'accord?
D'accord.
Donc, à la 10e place, nous avons Fernando Alonso.
Quoi? Mais c'est un scandale!
Attends, qu'est-ce que d'accord?
J'ai rien dit, j'ai juste teasé.
D'accord. Mathieu.
Oui.
Pourquoi avoir donné 25 points à Alonso?
Parce que, moi, franchement, je voyais bien les Ferrari aujourd'hui. Je voyais bien Alonso finir premier aujourd'hui, franchement. Et du coup, Massa aussi. Les deux Ferrari, je les voyais très bien. Et vu que de toute façon, la règle c'était que si Massa était devant Alonso, il devait le laisser passer pour le championnat.
Ouais. C'est bon, lâchez le pitbull. Dino.
Non, t'as pas envie de parler, toi, Cindy.
Ah non, moi je lui ai pas donné de points, donc.
Ben moi non plus.
Mais non, je sais pas, je pensais que t'allais sortir tes gonds.
Non. Pourquoi sortirais-je de mes gonds?
Bah, je sais pas, qu'est-ce que
c'est juste que, voilà, je ne comprends pas qu'on mette 25 points à faire dans le jeu. Non, mais après, voilà, enfin, c'est, bon, comme l'explique Mathieu, lui, c'était ses sentiments sur la course. À un moment donné, faut aussi tenir compte de la course, des données de la course. Voilà, il y a quand même d'autres pilotes qu'on fait. Puis, enfin, Alonso, il a fait que 100 mètres. Enfin, même si c'est pas de sa faute, on va en reparler. Je pense c'est pas non plus de la faute de Raikkonen. Oh, oh. Mais oui.
Il y a marqué, vous verrez qui à la première place, c'est ça. Moi, j'ai donné mon avis, c'est là.
Oui, mais après la course, pas avant. Non, mais après, voilà, c'est une lecture, mais je pense vraiment que pour moi, il y avait strictement rien qui laissait penser que Alonso pouvait gagner un podium, peut-être, mais en partant sixième, enfin.
Ah ouais, un podium.
Surtout quand on voit ce qui s'est passé en course et la domination de Sébastien Vettel, où on a vraiment même senti qu'il en avait sous le pied. Voilà, même Massa a rien pu faire. Je suis pas sûr que ce soit un argument en soi.
Bah, c'est ça, mais... en même temps, c'est vrai, tu dis que si Massa a fait ça, tu dis qu'Alonso, quand même.
Oui, si. C'est qu'Alonso, logiquement, il peut mieux faire.
Mais Alonso, de toute façon, dès le départ, il part mal. Il part à l'extérieur. Je suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour partir. J'ai pas l'impression qu'il va vraiment gagner des places sur ce départ. Est-ce que tu veux qu'on parle du départ, Cindy?
Oui, à la limite, on peut en parler. Profitons-en.
Je te propose, c'est de faire confronter un fan d'Alonso, un fan de Raikkonen, et après, je fais la synthèse. Donc, messieurs.
Mais non, mais pour moi, c'est du 50-50, ça arrive en début de course, voilà. Pour moi, il n'y a même pas à polémiquer.
Et pour toi, Mathieu?
Là, franchement, là, j'ai vu ça, j'étais dégoûté, c'est tout.
Ah, mais ça, je veux comprendre qu'on soit dégoûté, hein. Enfin, voilà, bon, c'est chiant pour Alonso. Mais voilà, moi, de mon point de vue, c'est un incident de course, quoi. En plus, c'est pas comme s'il traînait cette réputation, c'est pas comme l'autre pilote de chez Lotus.
Ouais, t'as de la chance qu'il y ait eu les deux en même temps.
Donc toi, en fait, à part d'être déçu, enfin, sur l'analyse de l'accident, qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu? Tu penses qu'il y a des responsables? Tu penses que c'est un incident de course? Tu penses que...
Non, franchement, Raikkonen, si tu fais pas le con avec lui, tu sais, il va être clean, tu vois. Si, par exemple, c'est, à un moment donné, il se fait dépasser, là, par qui, là?
Tu veux dire, dans le Grand Prix ou?
Ouais, dans le Grand Prix, aujourd'hui, je crois, qu'il l'a dépassé à un moment donné, là.
Oui.
Ouais, bah, voilà. Oui. Là, sur ce coup-là, tu vois, Raikkonen, il va essayer de rendre la monnaie de la pièce, tu vois. Mais sinon, non, franchement, je vois pas Raikkonen faire exprès de taper Alonso. Tu vois, en plus c'est une touchette, c'est pas vraiment gros kamikaze là.
Mais c'est
non,
ça qui est subtil.
Voilà, c'est oui.
Ouais, c'est ça qui est subtil, c'est ça qui est perfide.
C'est vraiment le petit bout d'aileron qui vient toucher la roue puisque c'est le la roue voilà qui crève.
Oui, non, mais c'est ça, tu vois, c'est là où Kimi il est très fort, c'est que il nous fait croire ouais c'est une petite touchette etc. Mais tout était calculé.
Oh,
dès le départ, il avait anticipé.
Alonso le dit lui-même, bon, il pouvait pas forcément faire grand chose parce qu'il y avait Button sur le côté. Non, voilà, accident de course.
Non, mais Alonso, il en avait un petit peu vénère après Raikkonen, après la course, apparemment.
Ah bah oui. Bah,
oui, non, voilà. Je peux comprendre. Mais après, voilà, c'est pas volontaire de la part de Raikkonen.
Oui, j'ai dit c'était volontaire. Tout était étudié la veille. On va apprendre dans un an. Hein, dans un an, on va nous dire que Briatore est revenu, qu'il a dit à Kimi, attention. Ah non, ça marche pas avec Briatore, merde. Bah c'est Boullier. Boullier, il a retrouvé des vieux dossiers de Briatore qui avaient prévu ce coup-là. Et hop, pouf, comme ça, ils se sont arrangés. Non, mais enfin, non. En plus, sérieusement, oui, c'est un accident de course. Il y en a certains qui ont fait la comparaison avec Grosjean à Spa. Faut quand même regarder quand on voit le ralenti, c'est que certes Alonso se déporte vers Kimi Raikkonen. Maintenant, il est dans le règlement dans la mesure où il laisse l'espace d'une voiture, c'est-à-dire que il a vu le trou, il se faufile sur la gauche, il laisse l'espace d'une voiture. Il y a aucun moment donné où il donne un coup de volant pour tasser. À partir du moment donné où il a laissé l'espace pour Kimi Raikkonen, libre à Kimi Raikkonen de prendre la décision ou pas de s'engager, de lever le pied. C'est ce qu'a dit Alonso. Il a dit, bah il aurait très bien pu lever le pied et donc il aurait perdu un peu de temps, mais ça se trouve il aurait su s'arranger. Il a pas levé le pied, Raikkonen, donc du coup il touche un petit peu Fernando Alonso, ça effectivement crève la roue arrière et ça a des conséquences pour Alonso. Donc, mais en dehors de ça, voilà, il y a strictement rien, il y a pas de manœuvre intentionnelle. Si maintenant en plus il faut interdire aux pilotes de se déplacer de plus d'une ligne au départ.
Non, parce que c'est ça, c'est-à-dire que ce soit l'un ou l'autre, aucun des deux en plus ne fait de trucs insensés quoi. C'est juste qu'à un moment ça se touche, voilà, malheureusement ça se touche.
Mais tout ça, ça revient aussi au cas Grosjean quoi. C'est qu'on en a fait tellement des caisses sur le départ de Grosjean. En dramatisant tout juste parce que c'est sûr qu'Alonso il a eu chaud mais c'était une petite erreur et c'est le départ, c'est un moment chaud ou sinon il faut faire, et ça là tous les pilotes sont contre, il faut faire ce qu'on fait en IndyCar ou ce qu'on fait dans d'autres championnats, il faut faire des départs lancés. Là il y aura plus de problème, mais franchement la course va perdre une grande partie de sa saveur. Donc voilà, ça fait partie des faits de course. C'est dommage, ça tombe encore sur Alonso. Il n'est pas pour grand chose, Raikkonen n'y est pas pour grand chose, ça gâche clairement la course d'Alonso. Oui. Ça gâche un peu la course de Raikkonen. Bon voilà, mais après pour moi il y a pas de discussion à avoir. Enfin.
Et sur l'incident de Grosjean?
Ah bah là. Grosjean, j'ai pas trop vu le replay.
Bah il rentre, il percute vraiment. C'est au moment où ça se referme. T'as Weber qui revient. Alors c'est vrai que l'impression c'est que Weber est un peu lent, je sais pas, mais vraiment il rentre dans l'arrière de Weber.
Mais je pense surtout c'est que Grosjean est plus rapide en fait.
Mais c'est ce qu'il dit. Le problème c'est ce qu'il reproche à Grosjean, c'est de dire oui c'est bien gentil. Il essaie, tu sais, d'être toujours le plus rapide au premier virage et il oublie qu'il faut freiner.
Je pense surtout c'est que là aussi il faut tenir compte du fait que c'est un peu quand même le chaos au départ. Enfin t'as une voiture qui part dans tous les sens, les mecs savent pas trop comment, enfin où va atterrir Alonso. Ils l'ont vu partir en sucette, mais moi même Lafitte apparemment a eu peur. Voilà sur le départ Lafitte, ouais. On a entendu, c'est rare quand même qu'on l'entende, mais là on l'a entendu. Il y a peut-être aussi de la part de Grosjean de se dire vite je vais me jeter à l'intérieur. Voilà, tout le monde était un peu sur des œufs peut-être à ce moment-là.
En plus donc, Grosjean entre guillemets ne cède pas en disant oui j'étais concentré sur Perez et j'ai pas fait attention à Weber qui arrivait sur le côté. Quand tu vois que même Charlie Whiting, c'est quand même un type qui est censé être relativement neutre par son poste, oui. Qui met sur Twitter vraiment, hein, qui reprend en fait, Grosjean dit machin, je me concentre sur l'un et pas sur l'autre, sous-entendant qu'il est pas capable de se concentrer à la fois sur ce qu'il y a en face et sur le côté, et il lui dit si c'est ça, il a rien à faire en F1. Charlie Whiting, hein.
Mais le vrai Charlie Whiting, parce que je sais qu'il y a un compte qui s'appelle Charlie Whiting, mais qui est un faux compte.
C'est peut-être.
Ouais, ça m'étonne quand même de Charlie Whiting. Parce que Charlie Whiting, généralement, il fait ce genre de choses, mais il fait ce genre de choses 10 jours après.
Ouais.
Mais après, c'est vrai aussi, ça fait partie aussi du processus d'un pilote de Formule 1. Dans un départ, tu ne dois pas non seulement regarder que le mec à côté de quitter. C'est un peu le défaut de Grosjean. Et c'est ça un peu le problème, et c'est là un peu le truc grave. C'est qu'il a changé plein de choses depuis Spa. Il a pas arrêté de dire qu'il avait retenu les leçons. Et puis, il a pas fallu 2 courses avant qu'il y ait un accrochage au départ. Et que sur son excuse, ce soit de dire « Ah bah oui, mais j'ai pas vu Weber. » « Ah bah oui, alors dans ce cas-là, mon grand, sincèrement, faut plus que tu prennes un départ de Formule 1. » t'es incapable de gérer sur un départ de Formule 1 les voitures qui sont derrière, à côté et devant toi, ça sert vraiment à rien que tu prennes un départ de course.
C'est comme à Spa, je sais pas si t'as vu quand ils se sont tapés, après il est rentré au stand, il a regardé la vidéo et après les gens l'ont interviewé. Qu'est-ce qui s'est passé, Grosjean? Et lui il dit je sais pas, j'ai pas vu la vidéo encore. Et que tu le vois 5 minutes avant en train de regarder avec les ingénieurs ce qui s'était passé. Ok, va comprendre.
Mais ça, je comprends pas de la part de Grosjean, parce que ce soit là ou l'autre, justement, comme je disais, bon, déjà, il est pas dans une situation facile suite à ce qui se passe en piste, mais en plus, il cède pas lors des interviews, quoi. C'est-à-dire que, il donne même pas la, enfin, à chaque fois, faut que ça soit pas terrible et qu'on se dise, oh putain, enfin voilà, en effet, le coup, le fameux, oui, j'ai pas vu, alors qu'on l'a vu regarder,
Mais c'est globalement une génération, quand tu vois le discours de Maldonado qui consiste à dire « Ah oui, ça fait partie du processus de faire des erreurs. Oui, mais tu coûtes des points à ton équipe et compagnie. Vous êtes des professionnels, les mecs. Vous êtes en Formule 1. Vous êtes battus pour y aller. Vous, à un moment, vous êtes des professionnels. On attend de vous un certain degré de professionnalisme. Là, c'est même plus du professionnel. Enfin, tu fais des courses, Mathieu. Quand même, enfin, quand t'es au départ, tu fais attention pas seulement au mec qui est à côté de toi, tu fais attention partout.
Oui.
Voilà, enfin, moi c'est ce raisonnement, cette excuse qui est absolument mais grotesque. C'est même pas l'erreur que j'ai envie de condamner, parce que ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Il dirait, écoutez, voilà, j'ai fait une connerie, j'ai freiné trop tard, j'ai pas anticipé, bon, punto, basta. Mais là, de dire, ah bah ouais, bah, j'ai regardé ce Perez et j'ai pas vu Weber. Ah oui, bah là, il y a un problème, oui. Parce que tu vois pas grand chose quand même.
Personne change de discipline, tu vois, en stock car.
Oui, voilà, part en IndyCar, là, en IndyCar. À quoi même pas, non, mais pas même pas, parce que l'IndyCar va introduire l'année prochaine, ils vont essayer les départs arrêtés.
Oui, ils vont essayer.
Et
ouais.
En vue de généraliser ça en 2014. Donc, non, va pas en IndyCar, ça sert à rien, tu feras les mêmes conneries.
Oui.
Mais à un moment donné, voilà, c'est, qu'est-ce qu'il peut faire, je sais pas, en fait.
Voilà, oui. Il a déjà changé, enfin c'est son physio qui a changé, ou enfin il y a quelqu'un, l'entraîneur ou l'aide de Teddy Riner, je crois, qui était avec lui pour l'aider. Bon.
La moche chaussure d'or. Ouais, c'est lui. Hein. C'est le mec, tu sais, le mec qui avait les chaussures d'or au JO.
Ouais, ouais.
Bah c'est lui.
C'est lui. Ouais.
Je me rappelle plus de son nom, donc j'appelle la moche chaussure d'or.
Mais si on va passer à la 9e place dans ce cas-là, moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur l'incident avec Grosjean.
Non, je suis inquiet pour Grosjean, sincèrement.
Bah là, oui, c'est vrai que oui. Il a un
parce que là, vraiment,
il a, est-ce qu'il a un contrat pour l'an prochain?
Bah non.
Ouais.
Il a un contrat d'un an. Lotus n'arrête pas de répéter à qui veut l'entendre que ils veulent le garder. Maintenant, il y a aussi d'autres pilotes qui sont sur le marché, qui sont pas mauvais, qui font preuve d'une certaine régularité. Il y a D'Ambrosio, il y a pourquoi pas un Kovalainen qui est disponible et qui fait peu d'erreurs. Il y a pourquoi pas un Kobayashi qui est tout aussi incisif, mais qui, mine de rien, cette année, on l'a beaucoup critiqué. Moi, je trouve que cette année, il est très propre, il fait assez peu d'erreurs et compagnie. Voilà, moi, sincèrement, je serais Grosjean, je serais pas serein sur la fin de saison, quoi. Et je serais même Lotus pour un peu faire flipper. Je donnerais un ou deux vendredis à Jérôme D'Ambrosio. Genre Abu Dhabi et l'Inde, tu vois, je mets Jérôme D'Ambrosio dans la Lotus 20 de Grosjean pour bien faire comprendre à Grosjean, lui mettre un peu la pression au cul. J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme l'effet Hamilton. C'est-à-dire qu'Hamilton, il était couvé par son équipe et que donc du coup, bah, il pouvait pas apprendre. Même si tous les autres lui disaient, comme il était un peu couvé par son équipe, il pouvait rien apprendre. Et là, le discours de Lotus, c'est un discours, oui, il va apprendre.
Et c'est compliqué, c'est même plus discours. Quand ton agent, c'est ton directeur d'écurie, hein.
Voilà, donc à un moment donné, l'équipe, elle doit juste. On a beaucoup critiqué Briatore pour ça, mais indirectement, Briatore aussi, c'était un mec qui était professionnel et qui, voilà, il fixait un cap à ses pilotes, il le respectait pas. Le pilote, il savait très bien qu'il allait en chier. Donc le mec savait à quoi s'en tenir. Là aujourd'hui, le mec, il peut rentrer tranquille au stand, il va se faire taper sur les doigts, mais ça a pas de conséquences. Je pense qu'à un moment donné, il faut que Lotus durcisse le ton et fasse comprendre à Grosjean que sa place est en danger. Parce que c'est sa place qui est en danger, c'est son avenir en Formule 1 qui est en danger. Et c'est dommage.
Parce que là, en plus, avec la sale réputation qu'il a, c'est pas une autre équipe qui le prendra. Hein.
Non, mais en tout cas, pas une équipe de premier plan.
Non. Donc, à la 9e place, il a marqué 139 points. Il n'a pas fini la course, mais il s'est distingué quand même. C'est Sergio Pérez. Alors, je lui ai donné 2 points, comme toi, Dino. Et Mathieu, tu lui as donné 15 points. J'ai envie de dire...
Sergio Pérez, une fois ça passe, deux fois ça casse.
C'est... L'impression que j'ai eue ce dimanche, c'est qu'il se sentait plus, Sergio. Je sais pas si c'est le fait d'avoir signé chez McLaren.
Là, il était chaud, là.
Mais il était chaud, mais pas tout le Grand Prix, mais pendant ses 18 tours, il était chaud comme la braise.
Là, le freinage, quand il a bloqué, là, pour doubler l'autre, là, il était chaud, là.
Mais sincèrement, moi, je pense que c'est l'illustration, je trouve, d'un cas qui est pas forcément bien géré par McLaren. dans la mesure où ils ont quand même recruté ce pilote, mais ils n'ont pas caché que c'était un peu à défaut. C'est-à-dire que depuis quand même l'annonce de Lewis Hamilton, on a McLaren qui dit oui, Hamilton pourra, on garde la porte ouverte, il pourra revenir. Ils se sont un peu épanchés dans la presse sur comme quoi ils regrettaient Hamilton et compagnie. Bon, maintenant il faut juste tourner la page Hamilton, dire voilà, Hamilton s'en va. Bon, maintenant notre avenir c'est Sergio Perez. Ils l'ont fait, mais il y a quand même derrière ce petit côté de on soutient Perez, on est d'accord, mais en même temps Hamilton va nous manquer quoi. Non, parce que du coup tu mets pas ton pilote dans de bonnes dispositions. Et je pense que Perez, plus que le contrat de McLaren, ce qui l'a fait un petit peu se sentir, c'est justement de se dire je suis en train de me battre avec Hamilton, j'ai quelque chose à prouver. Donc il a voulu faire ses preuves en disant voilà, je peux battre Hamilton. Oui, non. T'as fait con là, Sergio. Mais voilà, surtout la deuxième fois. Enfin, la deuxième fois, il dit la première fois c'était passé. Je me suis dit non, je vais essayer la deuxième fois. Bon, d'accord, Sergio, mais c'est un peu optimiste quand même. Donc voilà, je pense que il faut qu'il fasse attention. Il a rien à prouver sur cette fin de saison. C'est l'année prochaine qu'il a des choses à prouver. C'est là qu'il prouvera ce qu'il vaut vraiment. Mais là, cette année, il a rien à gagner à essayer de bomber le torse quand il croise Lewis Hamilton en piste.
Et surtout, il reste encore 5 courses. Alors s'il les fait tout à ce rythme-là. Ça va, il y a un truc qui va pas passer, quoi.
Oui. Mais c'est là un peu, c'est la jeunesse aussi, hein. Il a 22 ans, donc, voilà. C'est ce qui compte, c'est qu'il refasse pas.
Oui.
D'ici la fin de saison. Mais c'était un petit péché d'orgueil.
C'est peut-être ce qu'on lui a dit, t'es pas encore chez McLaren, tu te calmes.
Voilà. Quand on voit Vettel qui se claque le meilleur tour et quand même que le mec double champion du monde quand même.
Oui.
Qu'on lui dit non mais je suis pas dans la colle hein, parce que là tu peux pas la foirer. Bon, quand même tu sens qu'il y a c'est encore des jeunes pilotes qui sont super impétueux, qui sont très sûrs d'eux et globalement c'est même on parlait de Grosjean et de Maldonado, c'est le même problème quoi, c'est une génération de pilotes qui sont très sûrs d'eux. Donc dès que ça commence à aller bien pour eux, ils se sentent plus et ils retrouvent les réflexes GP2.
Oui.
Donc du coup, je tente un peu tout n'importe comment. Bah, oui, mais non.
Bah, souvent, ça passe pas, quoi. Allez, à la 8e place, il a marqué 157 points. Faut dire vraiment, entre la 8e et même la 11e, 12e place, ça a été très serré toute la matinée. Hein. Vraiment, ça s'est parfois pas joué à beaucoup. Hein. Il a marqué, donc j'ai dit 157 points. Tu lui as donné un point, Dino. Tu as été le seul. C'est Schumacher.
Ouais, parce qu'il a quand même fait une belle course. Il a fait un bon week-end d'ensemble, je trouve, par rapport à son coéquipier.
Oui.
Voilà.
Pas bon son coéquipier. En même temps, on l'a pas vraiment beaucoup
oui,
vu
voilà.
Dimanche.
Est-ce que c'est une vraie référence? Je ne sais pas. Mais voilà. Voilà, il a fait dans l'ensemble un bon week-end. Ça sauvera pas pour moi sa fin de saison, mais voilà, c'est un peu dans la continuité de cette année où il est capable de faire des bons résultats. J'espère qu'il aura quand même l'occasion de briller un peu d'ici la fin de saison. Quoi. Petit podium, bah non. Des points.
Oui.
Un point. Voilà, un point, ça sera bien.
Ah, quand même.
Un point. Il marque un point, je suis heureux.
T'as l'air de dire ça comme si c'était super rare.
Ouais.
Attends, avant de dire ça, je suis en train de regarder le classement. Bah, l'Italie, c'est pas si vieux que ça, quand même.
Ouais, voilà.
Allez, dans ce cas, direction la 7e place. Je lui ai donné 4 points. Comme Mathieu, c'est Nico Hülkenberg qui a marqué 220 points. Moi, j'ai surtout vu au classement parce que moi aussi, pareil, je l'ai pas vraiment vu.
Et toi, c'est l'aspect futur pilote Ferrari qui te plaît,
Mathieu ? Ah bah pour l'instant, je vois que lui. Pour l'instant, vu que les autres sont déjà pris, moi, je lui donnerais bien une chance. Là-dessus.
Ouais, mais c'est dents. C'est...
Non mais ça ne se limite pas aux dents, tu sais, les carrières d'un pilote.
Oui, non. Oui, mais non, mais non. J'ai peur d'aimer avec la combinaison.
Ah, oui.
Tu me connais, je dis. J'ai peur de le voir descendre de l'hélicoptère à Maranello et ah non.
T'as peur de le voir en rouge dans son trône là, comme au... parce que tu sais, ils ont des trônes, hein, les pilotes Ferrari. Enfin, bizarrement, oui. C'est surtout celui de l'Alonso qu'on voit. Espèce de truc au fond là. Bonjour, je m'assois, je suis au fond du truc. Voici mon trône et voici ma cour. C'est un peu ça le truc.
C'est vrai
physique.
Avec les bras, c'est bien étendu comme ça. T'as l'impression qu'il est pas du tout dans le garage. Il est sur motorhome. Non, c'est le garage, c'est au fond. C'est tout le monde bosse et lui il est là, il est assis. Ouais. Oh Stefano, tu me ramènes un café s'il te plaît, merci. Et Stefano, pas comme la dernière fois, hein. Tu mets un sucre, pas deux. Hein, parce qu'il faut que je surveille ma ligne. Tu sais, pour que je gagne, tu vois. C'est d'ailleurs, tu mettras moins de sucre aussi dans la Ferrari parce qu'il faut qu'elle surveille sa ligne, hein. Faut qu'elle gagne.
8 dixièmes. Il l'a dit. Je mets 8 dixièmes sur ma Ferrari.
Latino, vu que tu parles du fil des gens, il y a mon père, elle m'a raconté une blague une fois. Je te la racontais là. Genre, en fait, tu vois, c'est le lièvre et la tortue. Et, alors, ils se mettent sur la grille de départ et tout ça. Et le lièvre, il fait à la tortue. Mais dis donc, toi, t'as pas d'oreille? La tortue lui répond, bah non. Ils se remettent bien sur la grille de départ. Le lapin, il fait, Et dis donc toi, t'as pas de cheveux ? La tortue elle fait bah non. Le lièvre est sympa, elle fait putain je fais pas la course contre Niki Lauda.
Allez, pas celle-là. Allez, pas mal.
Non, puis pour une fois qu'on fait une blague sur l'Oda qui n'a pas un rapport avec les barbecues, non, c'est génial.
Bon, ça quand même, c'est un petit peu physique quand même.
Oui, oui, mais c'est bien de renouveler notre stock de blagues sur Niki Lauda, tu vois. C'est... Dans ce cas-là, on passe à la sixième place. Il a marqué 268 points. Je lui ai donné 10 points.
C'est un meurtrier.
C'est un fait de course. On a conclu que c'était un fait de course. C'est bon. Dino, tu lui en as donné 4. Mathieu, tu lui en as donné 6. C'est en effet Kimi Räikkönen. Finalement, il a pas eu une course... Bon, tu me diras, vu le niveau de la course, ils ont tous pas franchement eu une course extraordinaire. Apparemment, j'ai pas vu les essais du samedi matin, mais il a eu des essais très compliqués.
Oui, il a eu des pépins.
Des pépins, voilà.
Il a mangé une pomme. Il aurait mangé des glaces Bicone, on aurait dit qu'il a eu des bâtonnets.
Tu as déjà fait cette blague il y a 30 minutes.
Oui, mais c'est parce que tu nous as déjà fait la remarque, j'ai dit, donc je refais ma blague.
Oui, mais moi j'essaie de justifier, voilà, c'est...
Bon, en fait, j'ai mis super bas, je me rends compte. Parce que je repense à la course, et là, en repensant à la course, pourquoi c'est pas bon de faire son top 10 directement après la course?
Ah, ça change, t'as vu, c'est bizarre, hein.
Parce que, en repensant un peu à la course, il y a quand même des super dépassements, il y a, voilà, et avec autorité, et ouais, j'aurais au moins mis une place plus haut. Mais bon, c'est voilà, c'est pas grave.
Toi, Mathieu, sur la course.
Moi, je te dis, mon top 10, je l'ai fait comment ? Je voyais, en fait, mon top 10 que j'ai fait, c'est par rapport au classement de la fin de course. Moi, je voyais ça comme classement.
D'où la présence d'Alonso.
En oui, voilà. Tu sais.
Mais en fait, c'est parce qu'il a lu le classement à l'envers. Donc, premier Alonso, deuxième Rosberg.
D'ailleurs, tu verras que dans le top 10, j'ai pas mis Weber. Parce que je savais qu'il y avait allait avoir un truc entre les, une des deux Red Bull qui allait partir en live. Je pensais que genre ils allaient se toucher les deux, Vettel ou Weber. Et en fait non, c'est Grosjean qui a touché.
Ah toi en fait t'as fait ton top 10 avant la course.
Hein ? Ouais.
Ah d'accord.
Ah ça explique beaucoup de choses dans ce cas-là.
Ok, t'as fait un top 10 pronostic, ok.
Ah d'accord.
C'est normalement le top 10 ça se fait à la fin.
Mais bon c'est un concept aussi.
Ça se tente.
Oui. À la cinquième place, il a marqué 325 points. Il a un moteur Mercedes. Et l'an prochain, il aura plus qu'un moteur Mercedes. Il aura une casquette Mercedes, une tenue Mercedes, une voiture Mercedes, un motorhome Mercedes. Par contre, on ne sait pas s'il aura des victoires avec Mercedes. Ça, c'est une autre question.
Ah bah, lui-même, il a reconnu. Hein. Il a dit, j'ai conscience. Peut-être que l'année prochaine, je gagnerai pas. Ah, c'est bien, Lewis, c'est bien. C'est pas avec de bonnes ambitions. C'est bien.
Donc, Lewis Hamilton, Mathieu, tu lui as donné donc que 2 points. Donc, ça veut dire que tu n'y croyais pas. Hein, si on suit ton raisonnement, enfin, pas trop.
Ouais, moi, il avait pas de réglage et tout ça, je pensais qu'il allait pas terminer.
Dino, 6 points et moi, 8 points. Donc lui aussi, c'est pareil, il fait partie de ceux un peu comme Kimi, où en effet, apparemment, niveau réglage, c'était franchement pas terrible.
Mais c'est dommage, les McLaren, elles ont beaucoup eu du mal avec leurs pneus en début de course. Elles étaient pas forcément transcendantes en début de course. Mm. Et pourtant, en fin de course, ça s'est amélioré pour les deux. Alors ils se sont retrouvés dans les configurations de la qualif. Et pourtant, le qualif, ils ont pas fait un super temps au premier relais. Donc, je suis assez surpris.
Ça va, après, bon, il finit sur une 5e place. Au métier, comme on dit, c'est un peu au métier, là, pour coup, parce que c'est vrai que c'était pas son week-end, quoi.
Ah, quelle résistance, sur Räikkönen.
Ah oui, oui, la sortie, ouais.
Ça, j'ai kiffé. Ça, c'était bon.
Et donc, Mathieu, donc, t'y croyais pas,
Non.
Finalement, par rapport à son résultat, tu trouves que c'est bien, bon, même si, donc, tu lui avais donné que 2 points. Donc, ouais. Une 9e place.
Non, bah, ouais, c'est pas mal, là, ce qu'il a fait, là. Mm. Ouais, bah, surtout, ouais. Ça, grâce aux abandons des autres ou les conneries des autres,
Hamilton qui se découvre une nouvelle passion.
Les choux-fleurs, la natation.
Non, les échappements.
Les échappements.
Ah, il a une nouvelle passion. Il paraît que tout d'un coup, il se met à poser plein de questions sur les échappements et compagnie. Et oui, d'accord, ok. Et McLaren, il répond aux questions, tu vois.
Ah, ça, c'est plus étonnant.
Bah écoute, Lewis, on va te donner un petit guide, tu vois. Voilà. On va tout expliquer. Si tu veux, on a une carte de réduction pour aller faire des photocopies. C'est Mike Couslan qui nous l'a gardée. On te la donne et puis, bon voilà, après tu peux emmener ça chez toi, tu mets tes petites notes dessus et tout. On te fait confiance.
Bon, par contre, c'est des échappements qu'on a conçus il y a 10 ans. Hein. Mais si tu les files à Mercedes, y a pas de souci.
Non, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que c'est peut-être aussi le témoignage du fait que Lewis, il avait aussi besoin, et c'est ce qu'il va avoir chez McLaren, d'avoir
chez
plus de... Oui, chez Mercedes. Ah, je suis pas habitué encore.
Il va falloir s'y habituer.
Il avait peut-être aussi besoin d'avoir un vrai rôle technique. C'est vrai que chez McLaren, finalement, le pilote, il arrive, il monte dans la voiture, il fait ses petits réglages, il y va, la voiture, elle marche. Parce que les mecs, ils savent faire le boulot. Et Lewis, c'est ce qu'il a expliqué dans une interview à la BBC ce week-end. Il a dit, moi, j'aurais pu choisir la facilité, rester chez McLaren, remporter des courses et puis gagner de l'argent. Il dit, l'offre était sensiblement la même entre McLaren et Mercedes. Il dit, moi, ce que je voulais, c'était construire quelque chose. C'était un nouveau défi. Je voulais pas faire dans la facilité. Donc, j'ai choisi Mercedes. D'où le fait qu'il assume pleinement, il est conscient que l'année prochaine, ça sera dur pour lui de gagner. Mais du coup, on sent aussi déjà un pilote qui s'intéresse beaucoup plus déjà chez McLaren, qui est en train déjà de prendre des réactions, des habitudes, un peu à se schumacheriser en quelque sorte, pour dire voilà, faut que j'apprenne et faut que quand je sois chez Mercedes, je puisse être en mesure d'apporter des solutions, d'amener des idées, de bien comprendre de quoi il s'agit. Là où c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression chez McLaren que t'as le pilote qui pilote, les ingénieurs qui font la voiture. Et chacun a son boulot. Quand tu vois qu'ils ont fait les essais au Mugello, ils ont mis ça à leur troisième pilote, alors que les pilotes, Hamilton, ils mouraient d'envie de prendre la voiture pour rouler, pour avoir des opinions sur les pièces. Voilà, donc tu sens que Hamilton, il a vraiment ce besoin-là qui est d'apporter un soutien technique, des retours et compagnie à son équipe et essayer de construire ce que peut-être ne lui permettait pas de faire McLaren.
Sinon, Hamilton, j'ai vu une vidéo récemment, tu sais, ils font des shows, tu sais. En Angleterre, tu sais, dans la rue. Oui. Non, oui. Ils lui ont mis la bagnole d'Ayrton Senna des années 90. Et genre, il avait trop peur en fait du V12 turbo là. Il a carrément, il fait, non mais c'est pas possible à conduire ça. Il disait ça dans l'interview là, c'est pas possible.
mais moi, je me rappelle de d'Hamilton, une vidéo, un reportage qu'il avait fait Top Gear il y a 2 ans, je crois, où il avait fait essayer, enfin, il avait filmé à Silverstone le roulage dans la voiture de Senna, dans l'une des McLaren de Senna d'Hamilton. Et le mec, il était mais dingue dans la voiture, enfin. Il hurlait, il criait. Ça fait plaisir aussi de voir des pilotes aussi sous cet angle-là, de l'angle du plaisir, de la joie. Enfin, ils s'éclataient au volant, quoi.
Ah, ils aiment bien souvent rouler dans les vieilles F1. Alors souvent, ouais. Ils adorent et en même temps, quand ils sortent, ils disent mais c'était des dingues de rouler dans des trucs comme ça. Enfin, parce que bon, c'est pas le même niveau de sécurité, c'est pas le même niveau de technologie. C'est il y a même parfois, enfin, pas de technologie du tout. Enfin voilà, c'est toujours drôle à voir, ouais.
Bah nous on n'avait pas d'assistance sur au Castellet. Du coup, dès que tu mettais gaz, l'arrière est parfait, tu vois.
Et il y en a qui sont partis à la fin.
Ah oui, il y en a qui sont fait des têtes à queue et tout, hein. Ouais. Alors le problème c'est que si tu fais un tête à queue et tu cales, ils sont obligés de venir te chercher, tu vois.
Ah bah oui.
Y a pas de anti-calage. Encore les formules Renault, ça va parce que t'as un démarreur dessus.
Ouais.
Du coup, tu cales, t'arrêtes, tu appuies sur le bouton et elle redémarre. L'autre, la F1, non. Tu cales au bout du circuit. Ils sont dû aller même chercher Grosjean à l'autre bout du circuit, à un moment donné, en biplace.
Ah. C'est bizarre. À l'autre bout du circuit, c'était pas au premier virage, par hasard. Et justement, comme tu parles du circuit, juste une petite parenthèse, t'en penses quoi, toi, du Castellet?
Bah, en fait, c'est bien, vu que c'est vraiment un circuit pour apprendre, tu vois. Les bordures bleues, tu vois que quand t'es dans la bordure bleue, tu sais qu'il faut ralentir. Et quand c'est rouge, faut bloquer, hein, parce que t'es trop près des murs. Franchement, c'est bien pour apprendre.
Mais est-ce que toi, tu imagines un Grand Prix au Castellet? Sur le circuit, est-ce que tu vois?
Le Castellet, normalement, il est grand et nous, ils l'ont limité sur 2,5 km, tu vois. Ouais. On n'a pas, normalement, il y a une très grande ligne droite.
Oui.
Où, ouais, le Mistral.
Nous, on pouvait atteindre si tu l'agrandis, vu qu'ils l'ont coupé, nous, pour nous, le circuit, ça fait un peu court, peut-être, pour une F1. Il faisait 2,5 km.
Ouais.
Ouais, s'ils prennent la grande piste, ouais, pourquoi pas.
Ouais, je crois que c'est cette configuration-là qui est envisagée, c'est-à-dire avec tout le Mistral, mais avec des chicanes pour casser. À la 4e place, eh bien, c'est l'autre pilote McLaren, 516 points, un gap, comme on dit. Je lui ai donné 12 points, Dino 12 points aussi, Mathieu 8 points. Button,
T'es optimiste quand même pour la course, Mathieu. Plus optimiste qu'Hamilton.
Ah, ouais. Carrément.
Ouais, je voyais mieux, ouais.
Parce qu'il avait les bons réglages.
Ouais. Et déjà, c'était sur quel GP que genre à la dernière séance d'essai, il a mis une seconde à tout le monde. Je crois que c'était pendant les qualifs de Spa là. Avec
ouais. L'aileron. Ouais. Oui, mais il avait l'aileron.
Ouais, il avait l'aileron. Lui, j'avais pensé genre au milieu de la saison, je fais putain, je le verrais bien aussi chez Ferrari celui-là, Alonso Button. Là.
Ah mais oui. Ah. Mais bien sûr. Mais tout le monde aimerait bien voir, sauf lui. Il a dit, peut-être, mais dans un monde parallèle.
Voilà. Donc sur sa course.
Rien, il a bien fini, mais on est tellement content qu'il n'ait pas suffisamment
oui,
bien.
Voilà, heureusement, il n'est pas remonté.
Oui, ça a été chaud quand même. Hein.
Bah, au final, oui, il y a une demi-seconde. Sachant qu'ils n'ont pas ralenti, hein, pour la toute fin, parce qu'ils étaient vraiment collés, très proches.
Il y aurait eu 2-3 tours encore.
Ah ouais, franchement, oui.
Mais tu vois, il n'y aurait pas eu les 300 mètres d'offset là.
Oui, c'est vrai, c'est surpris, j'y ai pensé.
C'était pas sûr, c'était hein, que... Pas
sûr. Dans ce cas-là, on va passer au podium. Et à la troisième place, et vraiment, les trois premiers se sont distingués hein, sur le podium cette semaine. Il a marqué 839 points. Mathieu, tu lui as donné 12 points. Je lui ai donné 15 points. Dino, tu lui as donné 15 points. Et je sais pas, il a l'air de pleurer, gémir, je ne sais pas pourquoi. C'est Felipe Massa.
C'est émouvant parce que tu vois...
Tu viens de découvrir qu'il y a une deuxième voiture chez Ferrari.
J'étais pas au courant. Moi, je me disais, tiens, il y a d'autres écuries rouges. Et non, c'était un pilote Ferrari, en fait. On nous avait pas prévenu. T'étais au courant, toi, Mathieu.
Franchement, le mec qui allume sa télé au milieu de la course, il voit une Ferrari deuxième, il croit que c'est Alonso. Hein.
Ah bah oui, carrément.
Mais tu sais, le pire, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Au début, je vois une Ferrari partir, je dis, ah merde, c'est Alonso. Puis après, ils ont été longs à nous repasser le ralenti. Ah, puis il y a la safety car qui rentre, et puis à un moment donné, je vois la Red Bull devait être passée, puis je vois la Sauber, je vois la McLaren, et je vois une Ferrari. Bah, c'est Alonso. Ah non, merde, c'est pas ça.
D'ailleurs, sur la safety car, j'ai adoré la remarque qui tue des commentateurs. Je sais plus lequel des trois. Oui, au Japon, ils sont un peu lents et tout ça. Les safety cars durent. Et genre, 6 secondes après, safety car, une piste lap. Oui. Ouais, si tu veux, ça a duré 2 tours.
Non, mais il y avait pas non plus grand chose à déblayer. Non,
voilà. Mais soyez heureux, vous avez 2 voitures.
Bon. Oh putain, on a 2 voitures.
Bon, le problème, c'est que...
Ça pue un choc.
Ce qui aurait été encore plus beau, c'est si vous aviez eu les 2 voitures à la fin.
Oui, mais non, mais ce que je voudrais savoir, Chini, c'est nouveau, c'est récent.
Non, c'est toujours été le cas.
C'est-à-dire ça a toujours été le cas.
Bah, tu vois Rosberg. Oui. C'est la même chose, mais en rouge et en moins bien classé.
D'accord, ok. Mais c'était pas une voiture qui était déguisée. C'est pas une voiture client.
Non, c'est pas une Alfa Romeo, c'est pas une vieille Williams. Non, c'était bien une Ferrari 2012.
Je reviens, je vais me flinguer. Non, c'est bien. Moi, je suis content pour Felipe parce que autant j'espère qu'il va pas rester chez Ferrari parce que je pense que ça reste quand même épisodique. Mais voilà, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas fait de podium. C'est quasiment 2 ans jour pour jour puisque son année podium c'est le 24 octobre 2010 en Corée. Voilà, ça date. Mais voilà, ça me fait plaisir parce que je me dis comme ça. Moi, tu vois, je suis pas dans le truc. Il peut prolonger. Non, c'est plutôt bon. Il pourra partir en ayant la satisfaction d'avoir fait un dernier podium. Il est parfois complètement sur un constat d'échec.
Il y en a qui disent que, enfin, on a entendu notamment Moncé que, enfin, c'était, il a peut-être joué sa signature.
Oui, bah.
C'est ce que,
oui.
Partout là, que c'est bon pour son futur et tout ça, mais bon, c'est trop tard là, je pense. Hein.
Malheureusement, je crains qu'il poursuive avec Felipe Massa. Parce que Ferrari, ils sont pas dans la recherche d'un autre pilote, d'un autre pilote numéro 2. Ils ont qu'un objectif en tête maintenant, c'est Vettel. Et puis il y a pas d'autre pilote vraiment qui leur convient en ce moment. Donc ils se disent autant garder celui qu'on a actuellement. Si on fait une bonne voiture l'année prochaine, il fera des résultats et Alonso dominera et puis on aura rien à dire. Voilà. Mais ce problème, c'est toujours un peu difficile. On le voit bien cette année. Il aurait quand même été utile que Alonso ait parfois Massa qui s'intercale entre lui et d'autres derrière, quoi. Ce qu'a fait Massa aujourd'hui, enfin Massa a été utile aujourd'hui. Profitons-en, c'est rare, mais Massa a été utile.
Ouais, enfin pour Alonso, oui pour l'équipe, oui pour Alonso moins.
Pour Alonso aussi, parce qu'il évite mine de rien pendant très longtemps, il était toujours le dernier, même dans les circonstances de course, il était toujours derrière. Là, il est quand même devant Button, Hamilton, Raikkonen et compagnie. Donc il évite en tout cas ces pilotes-là de prendre des points et il fait que pour le moment le championnat va plutôt se tourner vers un duel. Et dans un duel, il suffit juste que Vettel fasse une faute, abandonne une fois, et Alonso il reprend ses aises au championnat sans avoir forcément perdu trop de terrain par rapport aux autres. Donc voilà, moi je pense que il a quand même bien joué aussi pour Alonso. Il a aidé Alonso à un petit peu limiter la casse sur les autres, pas sur Vettel.
Ouais. À la deuxième place, il a marqué 859 points. Oui, il a pas été, enfin, il y a pas beaucoup d'écart finalement avec Massa, hein, comme quoi Massa a quand même été bien plébiscité. Je lui ai donné 18 points. Dino, tu lui as donné 18 points. Et Mathieu, tu avais parié sur 10 points. C'est bien évidemment Kamui Kobayashi. qui fait donc le troisième podium de l'histoire pour un japonais. Et sur les trois podiums, il y en a deux qui ont eu lieu au Grand Prix du Japon quand même.
Oui, Japon 90 pour Aguri Suzuki, troisième place, et 2004 États-Unis pour Takuma Sato, troisième place aussi. Ils sont abonnés aux troisième places, les Japonais.
Kobayashi qui a dit qu'il avait roulé, enfin, ses limites, il n'avait pas essayé de sauver sa carrière.
Ah bon, il a dit ça?
Je vais retrouver la citation.
Il a dit, dans le communiqué, il a dit qu'il espérait que ça allait changer les choses, que... Voilà, grosso modo, qu'il y aura un avant et un après, donc sous-entendu, j'espère que je vais rester chez Sommer. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont le garder.
Oui, j'ai bien entendu, j'ai roulé pour sauver ma carrière un peu aujourd'hui, mais après, c'est peut-être une question de traduction. Mais en tout cas, oui, quelque chose, en tout cas, d'important pour sa carrière. Lui qui peint, on sentait quand même cette année qu'il était en position un peu fragile, surtout par rapport à Perez. Il sauve peut-être sa peau chez Sauber, lui aussi, tiens.
Mais c'est un peu comme Bruno Senna, c'est-à-dire que Bruno Senna, on aime bien se moquer de lui. Mine de rien, Bruno Senna, avant la course, il avait 25 points, Maldonado en avait 29.
Oui.
Kobayashi, c'est pareil. Il est plus régulier, quoi. Et je crois qu'au classement, il ne doit pas être très très loin derrière Perez.
Il est 11e, 50 points. Perez est 10e, 66 points. Ouais. Sachant qu'ils ont tous les...
En comptant que quand même Perez fait 3 podiums.
Ils ont tous les trois marqués 7 fois.
Voilà, en faisant 3 fois deuxième, je crois, il fait Perez.
2 fois deuxième et 1 fois troisième.
Ouais, 2 fois deuxième, 1 fois troisième au Canada. Donc c'est quand même qu'il y a eu des gros points chez Perez et des petits points. Là où Kobayashi, c'est régulièrement des points moyens.
Oui.
Donc moi, je pense vraiment que pour l'année prochaine, ça sera intéressant d'avoir un pilote comme ça, avec pourquoi pas un autre jeune pilote, Charles Pic par exemple.
Et donc toi, Mathieu, sur la course de Kobayashi?
Moi, je l'avais mis cinquième. Parce que je sentais Perez et Kobayashi faire quelque chose. Et en fait, voilà, c'était pas mal du tout. Bah,
il était à l'attaque et tout. Et rien que pour l'image du podium. Enfin, oui. Pas tant le podium, mais le public.
Il est à domicile, donc...
c'était à domicile.
Ouais. Non, il est résident monégasque, oui, il a vécu à Paris, il est pas vraiment japonais.
Arrête.
Non, mais c'est... À un moment donné, il faut juste appliquer le raisonnement inverse des commentateurs de TF1 qui, pendant des années... Au début, nous ont fait croire que c'est quasiment un pilote français. Non, il est français, soyons honnêtes, il est français. Enfin, maintenant, il est monégasque, mais voilà, il est pas japonais. Non, mais en plus c'est typiquement le genre d'image qu'on adore, quoi. Enfin, je suis même surpris qu'il soit que deuxième. Surtout que voilà, il y a un écart, on l'a dit tout à l'heure, 1077 points pour le vainqueur. Il y a quand même pas mal de points de différence. Et je suis assez surpris parce que quand même tout le caractère émotif, c'est l'équivalent d'Alonso à Valence, quoi.
Puis lui n'a pas fait sauter le bouchon de son champagne en plus. C'est bien.
Ouais. C'est pas malin de se moquer des handicapés, Shinji.
J'ai pas parlé d'handicapés.
T'as parlé de Massa, c'est pareil.
T'as dit ex-born. Pas born, ex-born.
Oui. Lui, il avait...
Mais Bang, c'est pas un handicap.
Il avait oublié qu'il fallait que tout le monde reçoive sa coupe, là.
Oui, mais ça, c'est quand même...
Je sais pas, on a l'impression qu'il glisse, je sais pas, et tu sais, il doit toucher la bouteille, donc forcément, comme les trucs sont enlevés, le bouchon est parti. C'est même étonnant que personne se le soit pris, tiens.
Ça se trouve, je
sais même pas s'il y a un bouchon là-dessus. Hein.
Ah bah si, parce que c'est du champagne. S'il y a pas de bouchon, ça.
S'il l'enlève. Voilà. S'il l'enlève déjà avant et après qu'il le.
C'est ça qu'on les voit rarement. Tu vois rarement le pilote sur. Allez hop, les gars, on retient les bouchons. Allez. Mais c'est quand même un podium super insolite, quoi. Tu vois Vettel, bon, c'est pas surprenant. Et tu vois les deux autres à côté, tu dis, c'est qui les deux là? On a le rouge, je le connais un peu, ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais le blanc.
Le chinois là. Et donc, à la première place, 1070.
Le chinois et le mexicain. Ah, il y a un chinois et un mexicain, regarde!
Il a marqué 1077 points. Je lui ai donné 25 points, comme Dino. Mathieu, tu lui as donné 18 points. C'est bien évidemment Sébastien Vettel, qui s'est baladé, j'ai envie de dire. Puis alors, en plus, après ce qui s'est passé au premier tour, on avait presque l'impression qu'il a presque gagné sa course au deuxième tour.
Mais il avait gagné même avant même d'arriver. C'est ça qui est peut-être un peu dommage, c'est que la McLaren n'ait pas été plus haut sur la grille quand on voit le rythme en tout cas qui était celui de Button, et puis quand on pense à ce qu'aurait pu faire Hamilton avec des bons réglages. Voilà, on peut quand même regretter qu'il n'y ait pas eu ce match entre les Red Bull et les McLaren maintenant. Ça a été du Vettel, quoi.
Mathieu, tu l'avais quand même mis deuxième, tu pensais?
Oui, deuxième, ouais. Ouais, parce que les deux Red Bull partent en première position et ça fait deux, trois ans qu'il fait la pole déjà, je crois, à Suzuka, non?
Mais ça fait 4 ans qu'il fait la pole et c'est sa troisième victoire en 4 ans à Suzuka. Ouais,
bah voilà, donc tu le vois dans les premiers, lui.
Allez, on va passer au classement dans ce cas, au classement des pilotes.
Alonso, 201 points. Vettel, 188. Hamilton, 171.
Oh merde.
Et Raikkonen, 158. Au classement 10.
On vous a dit, chers auditeurs, on ne veut pas envoyer de diplôme à Red Bull, parce qu'ils répondent pas. Hein. Donc c'est soit Alonso, soit Hamilton, soit Raikkonen, mais pas Red Bull.
Au classement des équipes, McLaren, 300. Red Bull, 299. Ferrari 266, Lotus 260. Dans l'autre classement, et là c'est vrai que pour le coup ce Grand Prix a peut-être été un tournant, Fernando Alonso 194, Vettel 190, il vient de mettre quand même un 25-0 après avoir mis un 25-15, oui. Il a pris 35 points en deux courses, Raikkonen 157, Hamilton 152, que 9 à pouvoir être titré, hein. Le dernier c'est Massa avec 69 points. Chez les constructeurs, Red Bull 300.
Oh, la grosse cote. Massa, 69 points, champion.
Non, tu veux connaître une grosse cote? En début de saison, avant le premier Grand Prix de la saison, tu vas sur Betclic et tu paries sur Karthik Kilian, champion du monde. La cote, elle est de 1 pour 500.
Ah, mais je vais perdre de l'argent.
Ouais, mais écoute, si jamais ça passe, c'est le jackpot.
Oui, bah oui.
Donc, au constructeur, Red Bull 324, McLaren 283, Ferrari 263, Lotus 239. Alors, il y a des gens qui déjà disent, ouais, c'est bon, on va avoir Red Bull toute la fin de saison, peut-être même McLaren, c'est foutu pour Alonso, allez, on prépare le troisième titre pour Vettel. Est-ce que c'est réaliste? Il reste 5 courses quand même. Alonso, il dit, c'est limite un nouveau championnat, parce que vu qu'il y a que 4 points d'écart,
C'est encourageant, c'est un nouveau championnat avec ta voiture, avec la voiture des autres. Ah, sympa.
Pour vous,
ouais, on est super heureux.
Pour vous, c'est mal barré pour Alonso? Voire très mal barré pour Alonso?
Mathieu, qu'en penses-tu?
Non, moi je le sens toujours bien. Faut éviter ce genre d'erreur. Parce que sinon, il était tout le temps là, il n'était pas peut-être premier, mais il était tout le temps dans les points.
Bah oui, parce que pour le coup, les deux fois où il a abandonné, en plus, c'est pas sa voiture, c'est pas de sa faute.
Voilà. Une fois qu'il a abandonné, bah, il est rentré dedans. Donc.
Et toi, Dino?
Bah, moi, je dirais que là, on est quand même dans un cas où, autant là, sur les dernières courses, c'était les autres qui avaient pas le droit à l'erreur, autant là, c'est, j'ai envie de dire, c'est Alonso qui a plus le droit à l'erreur. Parce qu'on voit vraiment là que ça fait plusieurs courses que la Red Bull tourne bien. Surtout que Sebastian Vettel commence à être dans la dynamique qui convient bien.
Deux victoires.
C'est le scénario 2010. Bah là, je sens le scénario 2010. Ça sent bon 2010. Ça, c'est voilà. J'ai pas peur qu'on se bouffe du Red Bull jusqu'à la fin de saison parce que je pense que McLaren va être là. Mais je pense quand même que ça va être dur pour Alonso d'être champion. À moins, effectivement, qu'il y ait des KO en face, maintenant.
C'est vrai que, bon, pourtant, je te dis, la semaine dernière, j'ai dit que je pensais qu'Alonso, mais bon, je pensais pas qu'il ferait qu'un virage. Bon. Ouais. Moi aussi, je commence à m'inquiéter sérieusement pour Alonso. Même si, voilà, il y a 5 courses, ça fait 125 points à distribuer, voilà, il peut se passer, justement, beaucoup de choses. Et je crois qu'en plus, au niveau des moteurs, par contre, je crois que la Ferrari d'Alonso, il a utilisé moins de moteurs que les autres.
Ah oui, de toute façon, Ferrari, ils sont dans toutes les stades de fiabilité, ils sont bons.
Donc ça, voilà, c'est au moins quelque chose qui pourrait être à leur avantage. Parce que c'est pas le moment non plus d'avoir 10 places de pénalité.
Voilà.
Mais si on va passer au fait marquant de la course. Et donc, il y a 2 semaines, on vous avait demandé quel était le fait marquant du Grand Prix de Singapour. Vous avez été 71 à voter. Merci, comme d'habitude. Il est arrivé 3e, 17 votes. Romain Grosjean termine une course et ne touche personne. 23,94%.
C'est plutôt Romain Grosjean termine une course, mais a touché du monde.
2e, 21 votes. Glock, une 12e place qui met du beurre dans les épinards. 29,58%.
Ah, c'était moi, ça.
Et 1er, 33 votes. Schumacher qui s'oublie sur V1. Tu vois comme quoi ça a marché.
Les gens sont des pervers.
46,48%.
Elle pour rappeler un fait de la course de Singapour, c'est ça?
Voilà, ça, c'était, ouais. Voilà, pour Singapour.
Ouais, je voudrais rappeler aussi, quand Massa, il rattrape la voiture, parce que ça, à Singapour.
Ah oui.
Parce que ça, va rattraper une voiture. Moi, là, quand on était au Castellet, moi, je suis parti en slide l'arrière pour rattraper, c'est pas comme un kart, hein.
Non. Donc, messieurs, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Japon qu'on va proposer aux auditeurs? Donc, a priori, ce serait Mathieu qui a le premier choix.
Ouais. Alors, Mathieu, le fait marquant du Grand Prix du Japon.
Raikkonen qui touche Alonso.
C'est à toi, Dino.
Vettel, en route vers un troisième titre, point d'interrogation. Ah merde, j'ai été con.
Là, j'ai deux choix qui peuvent être bons en plus. J'en ai pas un, ai deux. Faut bien que je choisisse, faut bien que je réfléchisse, faut bien que je choisisse. J'ai deux choix qui peuvent potentiellement être très bons.
Ça dépend, Shinji. Est-ce que tu es comme Lewis Hamilton? Est-ce que tu as envie du défi ou de gagner avec facilité, comme ça, du côté un peu vulgaire de la victoire, comme ça je gagne sans match?
Ouais, quand même. Et puis bon... Non, mais...
Tu es lâche, Shinji.
Non, mais peut-être pas, justement. Je vais peut-être pas prendre la solution de facilité. Mais je cherche une bonne formule quand même. J'ai trouvé. Kobayashi fait crier le public japonais. Donc, on vous rappelle, on va vous proposer un sondage. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Japon 2012? Vous aurez le choix entre Kobayashi fait crier le public japonais, Raikkonen qui touche Alonso et Vettel en route vers un troisième titre. Point d'interrogation. N'oubliez pas pour voter, hein, c'est sur l'article du SAV de la F1 sur le site fanf1.com. Et Dino, c'est l'heure du concours!
Oui!
Ça fait peur parce que oui. Oh mon dieu, c'est cette fameuse question.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Le concours Top Position. Rappelez-vous, il y a 15 jours, Adelin nous posait cette question. Quel est le résultat de la division de la somme des numéros des 4 virages qui encadrent le pont de Suzuka par le nombre de victoires remportées par le pilote le plus victorieux à Suzuka?
Est-ce que tu as compris, Mathieu?
Oh, j'ai pas compris.
T'inquiète pas, nous non plus, sur le coup, on n'a pas compris.
Donc, petite explication. Vous aviez trois sources possibles, voilà, Wikipédia, le site de la F1, le site de la FIA, pour pouvoir repérer les numéros de virage encadrés le pont de Suzuka. C'est-à-dire que Suzuka est le seul circuit qui forme un 8, il y a un pont, voilà, qui traverse une partie de la piste, sur laquelle les voitures repassent, donc du coup, au même endroit. Il y a un virage avant, un virage après, quand on passe dessous, et il y a un virage avant, un virage après, quand on passe dessus. Donc, il fallait trouver le numéro de ces deux virages. Les numéros ont un... Oui, des 4 virages, oui. Je te dis, complique pas le truc, s'il te plaît. Même si je suis pas clair, ça restera quand même un peu moins obscur. Et donc, vous aviez deux sources un peu contradictoires, enfin un peu différentes. C'est-à-dire que, officiellement, sur le site de la F1 et sur le site de la FIA, le virage de Spoon compte pour 2 virages. Alors que sur Wikipédia, le virage de Spoon compte pour un seul virage. Donc voilà, ça change un petit peu le nombre de virages. Donc si on se réfère au site de la F1 et de la FIA, le virage avant le pont, c'est le virage numéro 9. Donc le virage d'après, c'est le numéro 10. Quand on a passé Spoon, qui est le virage numéro... Donc le deuxième virage Spoon, c'est le virage numéro 14. Après, on passe sur le pont pour aller jusqu'au 130R, qui est le virage numéro 15. 9 plus 10 plus 14 plus 15, ça fait 48. Divisé par 6, ça fait 8.
Le compte est bon.
Si vous étiez sur Wikipédia, bah comme il y a un virage, enfin eux ils comptent un virage de moins, c'est toujours le 9 et le 10 quand vous passez en dessous du pont, et quand vous passez au-dessus du pont, en fait c'est le virage 13 et le virage 14. Donc là, 9 plus 10 plus 13 plus 14, ça nous fait 46. 46 divisé par 6, c'est dit. C'est facile, Shinji, t'es table. C'est facile. Les tables, table de 6, Shinji.
Ça fait pas 8 et quelques?
Ça fait 6,7,66. C'est quand même. T'as pas appris ça à l'école, je te dis. La table de 7,66.
Si, à l'autre. Oui, je suis pas fait pour les chiffres des lettres.
Donc on a accepté les deux réponses et vous avez été 3 à répondre.
Ah, c'est bien, on aura du choix cette semaine.
Oui. Et donc on explique à Mathieu, je vais vous proposer, vu que t'as pas participé, je vais vous proposer 3 questions, et avec Shinji, vous choisirez la question que vous voulez poser, c'est une question sur le Grand Prix de Corée, et l'auteur de la question aura gagné le concours Top Opposition de cette semaine. C'est bon, vous êtes prêts?
On t'écoute.
Vous êtes toutes oui?
Oui.
Alors, première question. Quelle écurie de Formule 1 a été sponsorisée par Korean Air à la fin des années 1990? Deuxième question, quel est le nom de l'alcool de patate douce qui est souvent de saveur très neutre? Et enfin, troisième question, de quelle longueur est le circuit permanent de Yongam quand on enlève la partie urbaine qui est utilisée pour le Grand Prix de Formule 1? Oui, rappelons que théoriquement, il va y avoir une ville autour du circuit de Corée,
oui,
du Sud.
Et
donc, il y a une partie urbaine.
Voilà. Mais bon, actuellement, il y a surtout des vaches et...
Voilà, donc en fait, c'est quelle serait la longueur du circuit de Corée si on retirait la partie campagnarde du circuit pour se concentrer vraiment sur la partie circuitale du circuit.
Oui.
T'as vu, j'ai inventé le mot circuitale, je suis dit. Ça veut rien dire, c'est totalement inutile, mais voilà.
Mathieu, as-tu une préférence parmi ces questions?
Toi, Shinji, tu vois quoi, toi? La 2, ah ouais, non.
Moi, je vois bien la 2.
La 2, quel est le nom de l'alcool de patate douce qui, souvent de, qui est souvent de saveur très neutre?
Ouais.
Là, ça a des goûts bizarres, les mecs. Hein.
Ouais, mais justement, ça change, c'est bien. C'est... Ouais,
bah. Bon, bah, bravo, Germain. Je t'avouerai, Germain, que quand j'ai vu les questions, je fais « Non, ça là, non. »
Il va pas prendre cela avec l'alcool.
Non. Et donc voilà, bravo Germain, tu as gagné, hein, bravo pour ta participation. Et donc, pour tous les autres, vous avez jusqu'à lundi, mardi prochain, pour répondre à la question suivante. Quel est le nom de l'alcool de patate douce qui est souvent de saveur très neutre? Un indice, c'est la question qui concerne le Grand Prix de Corée.
Voilà, c'est en relation avec la Corée. Voilà. J'ai déjà trouvé la réponse, tu vois.
Pour répondre, c'est concours@savf1.fr. Vous nous posez, donc vous répondez à la question, et bien évidemment pour qu'on puisse vous sélectionner, vous nous posez une question pour le Grand Prix suivant qui sera, si je ne me trompe guère, le Grand Prix d'Inde.
Oui, et d'Inde le pays, hein, pas le Grand
oui,
Prix.
Oui, pas d'Inde, c'est pas un Grand Prix qui fait glouglou.
Voilà.
Le Grand Prix qui fait glouglou. Glouglou, glouglou, glouglou. Ah non, c'est le dindon qui fait glouglou. Elle fait quoi, la dinde?
Bah, elle fait pas glouglou aussi, c'est pas la femelle du dindon.
Tout à fait.
Ah, peut-être.
Ah, très bien.
Mathieu, fais bien. Vas-y, fais nous la dinde, s'il te plaît, Mathieu. Ah, oh, il le fait vachement bien. On va t'engager comme dinde. Tu seras notre dinde.
Est-ce que quelqu'un connaît une équipe de monoplace qui a un logo avec une dinde? Non, parce que ça peut intéresser Mathieu. Si Ferrari le veut pas.
Y a la perte du Racing.
Là, mais je sais plus. Elle était rouge aussi. Elle était rouge et ils avaient un oiseau dessus ou un poulet, je sais plus c'était quoi. Du coup, t'avais 4 voitures rouges, tu les confondais avec Ferrari.
Mm-hmm. Intéressant. C'est à chercher,
visiblement,
ça.
Visiblement, il n'y a pas que Tom Motor Sport qui fume de la beuh. Mathieu aussi fume de la beuh. je vais la garder, cette phrase. Elle me plaît bien, moi, cette phrase. Et donc, on va quand même remercier pour leur participation Quentin, qui nous avait posé la question sur la longueur du circuit de Yeongam quand on enlève la partie campagnarde qui est utilisée pour le Grand Prix de Formule 1. La réponse était 3 km et 45.
Ah, moi, j'aurais dit 0.
Bah non.
Mais non, parce que il n'y a pas de ville, donc.
C'est vrai que ça aurait été une réponse possible, j'ai dit. Et enfin, la question, quelle écurie de Formule 1 était sponsorisée par Korean Air à la fin des années 90? Il s'agissait de
Benetton.
Et voilà, c'est tout.
On va passer donc justement au prochain Grand Prix, la semaine prochaine, ce week-end, le Grand Prix de Corée. Et alors, ça sera le matin, hein. Il y aura peut-être un échange de karma, c'est-à-dire que cette semaine, beau circuit, course chiante. La semaine prochaine,
circuit de merde. Et...
Peut-être course intéressante, hein. En espérant qu'on ne soit pas inondé de Gangnam Style tout le week-end. J'espère juste pas. Pitié, fin la une, ne nous mettez pas du Gangnam Style.
Pourquoi, t'aimes pas?
C'est comme tout, tu vois, une fois ça va. Voilà. Mais donc peut-être que vous n'aurez pas envie de voir ce Grand Prix. Et peut-être que vous y perdrez grand chose, hein. Vous voyez, hein, peut-être échange de karma et tout ça. Mais si vous ne regardez pas ce Grand Prix, eh bien rassurez-vous, le SAV de la F1 est là pour vous. Et ça, bien évidemment, c'est grâce à Mathieu.
Donc Mathieu, c'est à ce moment-là que tu nous trouves 7 trucs à faire pendant le Grand Prix. Si on n'aime pas la Formule 1 et qu'on n'a pas envie de voir la course. Mais qu'on est quand même suffisamment taré pour écouter un podcast sur la F1 pour avoir des conseils sur quoi faire quand on n'aime pas la F1.
Alors attends, je dis 7 trucs qui sont en rapport ou pas avec la F1.
Bah, des choses qu'on peut faire à la
place. Exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui n'aime pas la F1?
Ouais.
Eh ben, t'imagines cette personne-là, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire dimanche prochain entre 8h et 9h30 sans regarder le Grand Prix de Formule 1?
Sans regarder le Grand Prix de Formule 1?
Oui. Justement, c'est pour ceux qui ne regarderont pas.
Ah.
Mais qui écoutent quand même un podcast sur la F1. C'est des gens quand même qui sont déjà bien tarés quand même. Hein.
Ouais, ils ont qu'à rester dormir.
rester dormir, je crois que personne ne l'a dit encore depuis le début de saison.
Non mais bon, Mathieu découvre le SAV, on va lui autoriser certains répétitions.
Ils vont à la messe?
Ça n'a jamais été dit.
Non, je crois pas.
Alors après, ça dépend des horaires de la messe dans votre commune, c'est pas toujours la même heure. Si ça se trouve, vous serez peut-être obligé un petit peu d'attendre, parce que la messe commence pas forcément à 8h, peut-être qu'elle commence à 9h. Dans ce cas-là, vous n'allumez pas la télé, vous attendez, vous mettez votre petit costume du dimanche, et là, après, vous allez à la messe. J'essaie de développer pour lui laisser le temps de surfer.
Oui.
Ouais, parce que là, vous me prenez à froid, là.
Oh, je t'ai envoyé un mail pour te dire.
Ouais, mais je pensais pas. Déjà pour le top 10, déjà, je me disais, mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent, là? Ils veulent des pronostics, ils veulent quoi?
Il n'y a pas un truc qui se termine dimanche? Mais là, faut être con, parce que c'est-à-dire ne pas aimer la F1, mais quand même aller à un truc de bagnole.
Tu peux très bien ne pas aimer la F1, Cindy. Tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu peux aller au salon de l'auto si tu as envie, même si tu n'aimes pas la Formule 1. Mm. Alors Mathieu, là on t'a donné des indices. Hein.
Ouais, donc aller au salon de l'auto.
Ouais,
oui, tout c'est à fait. Oui, c'est vrai, ça se termine la semaine prochaine, on peut aller au salon de l'auto.
Bon après, aidez-moi.
Attends, t'as des salons de l'auto. On va essayer le truc que tu peux faire le dimanche matin.
Dimanche matin, 8h.
Ouais.
Prendre la douche.
C'est une longue douche. Ah oui. Mais oui.
Donc à faire leur activité sportive.
Quelle activité exactement?
Pas, s'il y en a, ils font du cyclisme ou quoi.
Oh, c'est bon.
Oui, c'est possible. Oui. Mais attention, mettez un gilet jaune parce qu'on sait jamais, parce que le matin, dans certaines régions de France, avec le décalage horaire.
Et puis vous pourriez croiser oui. Romain Grosjean. Donc,
Aller chez voir la famille et tout ça, mais le matin, c'est chaud.
Mais tu peux leur faire une petite surprise
bah,
le
oui.
matin?
Ah oui.
Tu vois, on pense jamais aller voir la famille le matin.
Ah, si, allez, mais la famille.
Quand tu pues de la gueule, quand généralement ils ont un petit reste de cuite du samedi soir, on pense jamais. Eh ben, hop, tu vas chez tes copains à 8h. Là, ils sont pas frais, mais ils sont contents de te voir.
Et voilà, hop, ça t'en fait une cinquième.
Ah, tu une sixième. Ceux qui vont, il y a les brocantes, les bonnes affaires, vous y allez le matin, là.
C'est vrai.
Oui.
Dimanche matin, faut y aller très tôt le matin, ouais.
Donc ça fait 6, là?
Ça allez, fait 6.
Ouais. Il en manque un 7e.
Une idée?
Moi, je dirais se remettre du résultat du PSGOM. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est dimanche. Mais en même temps, pour ceux qui vont perdre, il va falloir une semaine.
Là, tu mets cette solution? Tu mets cette idée?
Eh ben, c'était sept bonnes raisons.
Sept bonnes raisons, comme d'habitude.
Et toutes originales, inventives, créatives.
Et sinon, concernant donc les pronos sur cette prochaine course, qui vous voyez donc pour dimanche et pour le week-end en général?
Pour faire vraiment un bon pronostic, il faut vraiment attendre les essais et les qualifs là.
Ouais, mais nous on est
des
gueudins,
fous, nous.
Il faut s'aventurer comme ça, sans repère, sans filet.
Cartignan.
Ah, ouh, bon pronostic.
Pourquoi pas?
Moi, je dirais, aller Hamilton.
Allez, pour pas dire Hamilton, je dirais Button, mais je pensais Hamilton.
Ouais, pareil, moi aussi.
C'est vrai, des fois.
Jouez une McLaren.
On arrive à la fin de cette émission, Nino?
Oui.
On rappelle, donc, la semaine prochaine, il y aura pas de mag, mais dans 2 semaines, il y en aura un, normalement, si je me trompe pas.
Oui. Hein.
Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, on vous rappelle l'adresse, c'est répondeur@savf1.fr. Donc, pour le concours, ça, on a donné l'adresse pour le concours.
Oui, concours@savf1.fr.
On vous rappelle, comme d'habitude, qu'on est sur iTunes. Que l'on est sur Podcast France. D'ailleurs, on peut saluer le podcast. Alors, j'ai plus son nom, mais c'est le podcast, c'est Live Teal.
Oui.
Voilà, qui a parlé de nous. On sait que voilà, il y a un des présentateurs qui nous écoute et qui a parlé de nous. Alors, faut savoir que leur podcast, c'est un podcast, alors qui est pas du tout sur la F1, c'est sur les Windows Phone. Parce qu'il y a de tout sur Podcast France. Voilà. Donc, bah déjà, on leur remercie voilà de nous avoir cités. Puis à notre tour, voilà, on parle d'eux. Voilà.
Mais on aura d'ailleurs l'occasion de le recevoir dans l'émission sans doute d'ici la fin de saison.
Voilà.
L'occasion pour vous de vous rappeler qu'il reste des places disponibles. Si vous voulez faire comme Mathieu venir participer à l'émission, c'est contact@savf1.fr. Il nous reste, je crois, 2 ou 3 places disponibles. Ça a été, Mathieu, ça a passé une bonne émission.
Oui, j'ai même un message à faire passer.
Ah.
2.
Oh.
Vous avez 2 nouveaux messages.
Donc n'oubliez pas, l'AF1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com,
c'est bien. Et le SAV de la F1, c'est...
Le Ritz des podcasts.
Oui, ou la famille. Alors, tu l'as enfin vu, le fond d'écran?
Oui, je l'ai vu, hein. Oui. D'ailleurs, on rappelle qu'on est sur Twitter, hashtag
SAVF1.
Voilà, et puis vous pouvez suivre aussi @fanformule1, qui est le compte de FanF1, où vous retrouvez toutes les news les plus importantes, et on en profite pour saluer le travail de la rédaction. De temps en temps, ça fait pas de mal.
Et tu sais que je l'ai mis en fond d'écran. Le fond d'écran, je l'ai mis comme fond d'écran de mon PC. C'est très drôle.
Oh. Ouais. T'as mis un fond d'écran au fond d'écran, Shinji.
Oui, mais j'ai mis le fond d'écran, le SAV de la F1, c'est la famille.
C'est intéressant, dis donc, Shinji. T'as mis un fond d'écran en fond
oui,
d'écran.
Oui, mais c'est un fond d'écran SAV de la F1.
T'es un fou, Shinji. T'as mis un fond d'écran en fond d'écran.
Mais un fond d'écran SAV de la F1.
Mais tu t'as pris un fond d'écran et tu l'as pas détourné pour en faire un fond d'écran.
Si. Et donc, Mathieu, tu as des messages à faire passer.
Alors, si vous avez un baquet, vous contactez SAVF1, ils vont vous envoyer mes coordonnées. Et je voudrais faire, parce que quelqu'un m'a demandé, et je fais un bisou à Sonia Dupont qui habite la Louvière.
Bisous Sonia. C'est pas quitté, mais on t'embrasse quand même. Sinon, on est comme ça, on est des gentlemen.
Voilà.
Donc.
T'as un bisou à faire, Chili?
Non, c'est bon.
Et ben moi, je te fais un bisou à toi, Chili.
Oh, c'est gentil.
Et je fais aussi un gros bisou à toutes nos auditrices. Bonjour auditrices.
Oui.
Je t'embrasse.
On vous aime.
Shinji, on les embrasse, on les aime, c'est après, on verra ça.
Ouais, tu t'engages trop, Shinji. T'es pas sentimental, t'es pas un romantique aussi, c'est pour ça. Allez, on vous souhaite une bonne
semaine. Tu vas voir, je vais te prouver que je suis un romantique, Shinji, j'écris des petits poèmes.
On vous souhaite une bonne semaine, et puis un bon Grand Prix de Corée, et bien évidemment, on finit cette émission, j'arrête de bafouiller, sur ces quelques mots de poésie, visiblement. Il est chaud, il est comme Perez, il est chaud ce week-end.
Oui, oui, c'est, vous savez, on est au Japon, un Japonais a fait un podium sur cette terre, je me suis dit, quelle plus belle manière que de faire un petit haïku. Et donc voilà, ce petit haïku, il est pour toi, Kamui. En terre nippone, des saveurs du triomphe, Kamui s'enivre.